Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 3 décembre. Temps des fêtes qui approchent lentement, mais sûrement, mais il reste du bon hockey à jouer. Du bon hockey, c'est pas tout à fait ce que les Canadiens ont offert hier dans leur retour à Montréal après un voyage un petit peu plus dans l'Ouest. Donc, on va parler de ça aujourd'hui à l'émission avec les collègues Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage. Mais on va aussi avoir Hugues Marcille qui va se joindre à nous en deuxième portion d'émission. On va y aller d'un spécial Poolers. On vous a pas parlé de Poolers depuis le début de la saison. C'est le temps de faire ça. Donc, Hugues qui va être avec nous en deuxième, avec moi, à vrai dire, en deuxième portion d'émission. Parce que pour le début, je les accueille avec moi, Jean-François Chaumont. Salut, JF.
Salut, Nick. Salut, Guillaume.
Et salut, Guillaume Lepage. Salut. Salut,
bonjour, monsieur.
J'aime comment JF te présente tout le temps, Guillaume. Ça m'énerve au plus haut point, mais bon, il le fait toutes les fois.
Fait que, Faudrait que tu me présentes en premier, puis après
Ça. Ben oui, c'est ça. C'est retenu, là, c'est fini. Chaumont sera toujours deuxième à partir de maintenant.
Je voulais simplement être poli avec mon partner. C'est correct.
Ouais. Comment tu vas, Chaumont?
Je me suis rarement senti aussi bien. C'est deux jours de gloire. C'est pas facile. Mais je suis heureux d'être avec vous. J'ai pas parlé beaucoup les derniers jours. J'ai bu beaucoup de Gatorade. J'ai mangé une soupe Lipton hier à 18h15. Puis c'est tôt.
Tu sais, il y a des resorts, là, tout inclus. Là. Toi, c'est ta salle de bain depuis deux jours. Le resort, tout inclus. Donc,
on
merci.
On rentrera pas dans les détails.
Non, mais merci d'avoir combattu, d'être le combattant ce matin qui est sur le balado. Écoute, si tu disparais, on saura pourquoi, puis on te reprendra quand tu seras de retour. Guillaume, toi, ça va bien, la santé, tout ça?
Oui, je vais toucher du bois, tout va bien. Je me suis tenu loin de Jean-François dans les derniers jours.
De Jean-François.
À vrai dire, ben là, non, mais on ne peut pas aller dans les familiarités. Non, la dernière fois que je l'ai vu, t'es en train de retirer beaucoup d'argent au casino.
On me donnait de l'argent.
Retirer de notre fonds commun, de l'argent de l'État, je gagnais pour la mettre dans ton compte en banque. Donc, c'était la dernière fois, donc je suis correct, en pleine santé pour l'instant.
Et je tiens
le fort pendant l'absence de Chaumont, parce que c'est un mauvais moment, là, un deux matchs en deux soirs. C'est un mauvais moment pour tomber au combat, mais
je pense que c'est la première fois que je manquais un match puisque j'étais malade en plusieurs années.
Ah ouais?
Donc, je me sentais pas bien, mais honnêtement, c'était pas une bonne idée de me présenter au Centre Bell. Je revois aussi la face de mes deux cocottes le matin, le Rosalie et Zoé. C'est rare qu'elles voient leur papa être malade, mais surtout, c'est tout de suite après le cadran matinal qu'on dirait que ça a décidé que ça sortait. Donc, on ne rentrera pas dans les détails, là, mais...
Bon,
si je voulais me souvenir de réveiller les deux filles, elles se sont réveillées assez rapidement.
Au moins, tu me disais que tu avais pris du poids cette année. Ça vient de se niveler
retour
à ton poids de là, deux ou trois années. Donc, des bonnes nouvelles. Les gars, on va y aller dans le vif du sujet. On va parler des Canadiens. Hier, Martin Saint-Louis a déjà dit que l'équipe, quand elle avait mal performé, s'était vomi dessus. Chaumont aussi. Mais hier, c'était ce type de performance-là où on est responsable de notre malheur chez le tricolore. En majorité dans notre zone, dans cette défaite-là de 5-2 contre les Sénateurs, on a couru après le trouble. C'est 100% notre faute chez le tricolore hier.
Ben, tu sais, Martin Saint-Louis parle souvent d'actions qui aident l'autre équipe. Hier, il y en a eu au moins 5 dans ce match-là. Ça a donné 5 buts. Défaite de 5-2, ça a été vraiment catastrophique côté défensif. Là. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Sur les 5 buts, tu sais, on dit que le hockey est un jeu d'erreur. Là. Ça arrive. Mais là, sur les 5 buts, c'est directement lié à une erreur soit de lecture, de couverture défensive ou de cohésion entre les coéquipiers. On a eu des moments où on a vraiment perdu la connexion en zone défensive. Les Sénateurs tournoyaient et puis on a fini par perdre notre homme. Souvent des joueurs seuls devant le filet, devant Samuel Montembeau qui, je veux dire, dans une prestation d'équipe comme ça, on n'a pas beaucoup parlé du gardien, Samuel Montembeau. Mais tu sais, sur deux ou trois buts, aurait peut-être pu faire l'arrêt, se faciliter la tâche. Le but de Drake Batherson, entre autres, qui donne un juteux retour devant lui. Batherson, je le comprends, fin seul devant, ressaisit son retour pour marquer. déplacement un peu douteux sur le but de Jake Sanderson, a perdu un peu son poteau. Donc, tu sais, je pense que collectivement, c'est une soirée à oublier. Mais l'inconstance commence à faire partie du jeu de cette équipe-là depuis un mois presque, depuis début novembre en fait, depuis la visite des sénateurs d'Ottawa, là, ça faisait presque un mois jour pour jour et c'est là qu'on a commencé un peu à glisser. Et hier, ça a été devant les partisans au Centre Bell et tout ça, je pense que ça n'a pas été un très très bon spectacle, une très bonne façon de revenir d'un voyage qui avait été somme toute fructueux.
Ouais, c'est ça.
Donc, t'sais, là, ce soir, il y a un autre match contre les Jets de Winnipeg. Peut-être que ça va se corriger, mais je veux dire, la défaite d'hier, ça laisse quand même beaucoup de points d'interrogation dans le cas du Canadien.
Ouais, puis il y a Samuel Montembeau qui, lui, espérait de revenir de Vegas en étant plus confiant, probablement son meilleur départ de la saison contre les Golden Knights. Oui, c'est un match so-so, ordinaire pour Samuel Montembeau, mais si tu regardes devant lui, les chances de grande qualité, selon Natural Stat Trick, à 5 contre 5, 17 à 3 pour les sénateurs. Ça, c'est une solide varlope. Jaden Struble a passé la soirée à parler à un peu tout le monde chez les sénateurs. Oui, du côté d'Ottawa, on n'avait certainement pas oublié le combat Struble contre Nick Cousins. Cousins ne jouait pas hier, mais il a parlé, mais il a oublié de jouer aussi. Combien de fois qu'il s'est fait prendre avec Lane Hudson dans son propre territoire, ça te force à te poser des questions. On en a parlé plus qu'une fois, mais tôt ou tard, Hudson a eu des difficultés défensivement hier, là. Mais Hudson, est-ce qu'il peut survivre avec un partenaire comme Jaden Struble? Je suis pas convaincu. Puis le troisième duo, t'as Alexandre Carrier qui dit ouvertement qu'il se cherche, qu'il ne connaît pas du bon hockey. Elle n'aime pas son début de saison. Martin Saint-Louis disait, pour un joueur comme lui, la colonne des plus et moins est souvent révélatrice. C'est là que ça peut miner un moral. Mais Carrier est rendu à moins 10. Mais le pauvre Carrier doit jouer avec Arber Jacky soir après soir. Puis à l'attaque, les gars qui sont supposés t'amener de la profondeur, t'amener de l'équilibre, Jake Evans est moins 15, Josh Anderson est moins 11, Joseph Veleno est moins 10. Non seulement ils ne produisent pas offensivement, mais ils se font pincer, ils se font marquer à 5 contre 5. Mais tout ça, c'est la belle conséquence aussi d'Alex Newhook qui est sur la passerelle de presse, qui est blessé. Caden Goulet qui va s'absenter encore plusieurs semaines. La liste est longue là, de joueurs blessés importants chez le CH, mais ça finit par venir te hanter assez rapidement.
Oui, puis tu parles au niveau de la qualité du jeu défensif, le plus et moins dans ces cas-là, mais si tu regardes aussi la production secondaire des joueurs présentement, c'est pas mieux non plus. Là. Dans les 5 derniers matchs, j'ai regardé un peu, puis il y a Josh Anderson qui a 2 buts, Evans 2, 1 but, 1 passe, mais ça descend rapidement. Brendan Gallagher avait connu un bon début de saison, mais là, il n'est pas là du tout, Gallagher, au niveau de ce que tu peux amener, juste un point ici et là, ça fait pas le travail. Joe Veleno, bon, il n'y a aucun point qui se marque. Alex Texier, bon, c'était un peu ça qu'on voulait en aller chercher en espérant qu'il puisse bien jouer défensivement, mais ça reste un pari, tu sais, un pari peu coûteux, mais un pari dans son cas. Donc, non seulement tes joueurs de profondeur n'aident pas tes deux premiers trios, mais en plus, il n'y a pas offensivement, mais en plus, ils ne font pas leur travail en arrière. Tu laisses beaucoup dans la cour de deux gardiens qui, en plus, se cherchent depuis le début de... Peut-être pas depuis le début de l'année, là, mais depuis un mois.
Oui, puis hier, Martin Saint-Louis, en troisième période, a un peu perdu patience. Là, Jake Evans, Josh Anderson, qui ont été cloués au banc, entre autres. Zachary Bolduc, qui a été directement responsable de la couverture manquée sur deux débuts des sénateurs, qui a aussi regardé la troisième majoritairement là, du banc de son équipe. Fait que l'entraîneur, tu sais, oui... Il y a l'aspect blessure, il y a l'aspect jeunesse, parce qu'il y a un Florian Jacky aussi qui a été, je pense, une présence en troisième période. Il y a quand même beaucoup de jeunes dans cette équipe-là, mais hier, Martin Saint-Louis dit que c'est pas une excuse. Là. Moi, j'accepterai pas des erreurs comme ça, parce qu'il dit les gars sont au courant du système. Ils savent, il dit je vais leur montrer une vidéo, là, puis ils vont pouvoir vous l'enseigner le système. Là. Ils connaissent absolument tout là-dessus. C'est pas un problème de système, c'est un problème de concentration, d'effort, d'attitude aussi, qu'il dit. C'est une attitude de défendre parce que c'est pas quelque chose qui est plaisant à faire et t'as pas vraiment de récompense. Mais hier, il y en a beaucoup qui ont levé la pédale au point de vue défensif. puis l'entraîneur, au moins, a donné des conséquences par rapport à ça. Il y a Nick Suzuki qui disait que quand la première puis la deuxième, Saint-Louis est entré dans le vestiaire. Je pense que c'est assez rare que Saint-Louis intervienne comme ça. Puis il a dit si ceux qui ne veulent pas jouer défensivement, ben ils vont rester cloués au banc. Puis les bottines ont suivi les babines en troisième période. Puis c'est correct de voir ça, mais je pense que, tu sais, globalement, c'est une équipe qui a beaucoup de trous en ce moment.
Ouais.
Jeff en a parlé, la défensive, là, je pense que... Tu sais, Alexandre Carrier, là, hier soir, après le match, il était...
Pas jaseux,
très,
hein?
Très mauvaise humeur. Puis habituellement, c'est un gars qui, même après les défaites, tu peux aller le voir, va te donner une bonne clip. Hier, il a donné des bonnes clips, mais ça ne tentait pas d'être dans le vestiaire. Puis il a dit, c'est pas scientifique, là. Faut que tu trouves ton gars. Puis que tu l'empêches de marquer, que tu restes avec lui. Mais à certains moments dans ce match-là, on pouvait penser que c'était une grosse formule scientifique parce que ça, les joueurs du Canadien ne semblaient vraiment pas comprendre. Hier, j'ai sorti la stat sur Jake Evans, 9 minutes 22 de temps d'utilisation. C'était son plus bas temps de jeu depuis... Le 12 octobre 2022.
Ça fait longtemps,
contre les Maple Leafs, dans un match qu'il complète, là, qu'il joue d'un bout à l'autre sans se blesser. Donc, c'est un solide message quand même de Martin Saint-Louis, là, de clouer au banc son spécialiste défensif, Jake Evans, en troisième période. Je pense que ça envoie un message qui est assez fort dans le
but. Là, ce qui n'est pas bon, c'est que tu as surutilisé plusieurs joueurs de tes meilleurs éléments pour essayer de remonter, alors que tu joues ce soir. Ouais. Tu joues ce soir contre les Jets de Winnipeg. C'est absolument pas ce que tu veux. Tu veux que ces gars-là soient au sommet de leur forme dans un aspect de deux matchs en deux soirs. Donc, tu pars déjà avec une prise ce soir là, contre les Jets.
Mais ça, c'est un refrain qui revient souvent, la surutilisation de joueurs clés, à commencer par le capitaine Nick Suzuki. Après ça, t'as la ligne bleue, t'as Mike Matheson, Noah Dobson, qui n'ont pas le choix de prendre de trop grosses minutes. Mais Guillaume parlait de Jake Evans hier, 9 minutes et des poussières, son temps de jeu. Je me pose la question, est-ce que son début de saison est difficile? C'est pas seulement un match, là. Jake Evans, c'est moins 15. Hier, je pense qu'il y a peut-être une impatience chez Martin Saint-Louis, avec raison. Mais est-ce que c'est le type de joueur qui pourrait s'ennuyer de Yoel Armia? Il a joué énormément avec Yoel Armia dans le passé. Est-ce qu'il forme un bon duo avec Josh Anderson? Jusqu'à présent, c'est très moyen cette saison, Evans et Anderson. Donc, tu deviens un petit peu plus à court de ressources, mm-hmm. mais tu regardes aussi défensivement. 25 matchs joués cette saison, 8 fois le CH a donné 5 buts et plus. C'est aux 3 matchs que tu donnes plus que 5 buts, c'est beaucoup trop. Ils sont 31e au niveau de la Ligue nationale dans la moyenne de buts contre, à 3,60. Il y a seulement les Canucks de Vancouver qui ont un pire rendement. Donc, on a beau, les gardiens sont en partie responsables, ils font partie de l'équation, mais devant les gardiens aussi, c'est très difficile. Tu peux pas survivre. Le CH est 7e pour les buts marqués. C'est une bonne fiche. Mais si tu es 31e pour les buts accordés, bien, tu ne réussiras pas à te maintenir dans le portrait des séries. Ça, tantôt, je parlais de New York, je parlais de Goulet, mais il y a Kirby Dach aussi. On a tendance à l'oublier parce que Dach est souvent blessé. Mais c'en est un qui montrait des signaux quand même intéressants avant de tomber au combat. Donc, je serais pas surpris. On se parle en ce moment. On est mercredi. Il est quoi? Il est 9h50. Je tomberais pas en bas de ma chaise d'apprendre le rappel de Samuel Blais dans les prochaines heures. Samuel Blais, ça apporterait un petit peu d'expérience, un petit peu de vécu, de la robustesse. C'est un joueur que si tu lui confies des missions défensives, il va pouvoir s'acquitter de ces missions-là. Il a 5 points en 3 matchs depuis qu'il a été réclamé au balotage et qu'il s'est joint au Rocket de Laval. Donc, c'est un gars qui mériterait son rappel. Jared Davidson, qui est dans les estrades, je ne pense pas qu'on va garder Jared Davidson dans les estrades éternellement. Florian Jacquet a joué 5 matchs maintenant avec l'uniforme du Canadien. C'est correct. Il a montré qu'il pouvait amener une recette différente, mais est-ce qu'il peut être un joueur régulier aujourd'hui? Je pense que Jacquet gagnerait plus à jouer de bonnes minutes avec le Rocket qu'à rester au sein d'un troisième, quatrième trio. Puis hier, dans un match où ça devait brasser, où ça devait être intimidant, Florian Jacquet a connu un match là, très, très, très beige contre les Sénateurs d'Ottawa.
Au même titre que son frère.
Son frère, il est beige depuis longtemps.
Oui, c'est beige. Écoute, à quel point il est perdu, lui-là. Là? Parce que l'identité qui lui a permis de faire la Ligue nationale de hockey, il semble y en rester absolument rien. Il a l'air d'un fantôme, mais en plus, défensivement, c'est une problématique. Là, c'est deux prises. Là. Je veux dire.
Moi, je me dis hier, si c'est pas les Sénateurs en ville, je pense que Adam Engstrom est dans la formation des Canadiens à la place d'Arber Jacky. Je pense qu'on l'a mis là pour l'élément de robustesse. De l'autre côté, on a habillé Curtis McDermid qui, j'ai beaucoup de questions.
Un vieux de la vieille. C'est ça.
Joue 4 minutes par match.
Non, t'es généreux. C'était 2 minutes 58 hier contre le Canadien. Puis honnêtement, c'est un joueur qui a de la misère à suivre le rythme. Il n'y a personne qui veut se battre contre lui parce que c'est un... C'est qui le joueur du Canadien qui avait dit que son but était
d'avoir
aucun impact sur le jeu?
Jay Leach.
Exactement. Mais je pense que Curtis McDermid correspond exactement à ça. Donc, c'est sûr qu'en voyant ça, ben, tu te dis on va mettre Arber Jacky dans la formation, mais en troisième période, il n'a pas eu beaucoup plus de temps de jeu que tous ceux que j'ai nommés qui ont été cloués au banc pendant cette période-là. Fait je sais pas, tu sais, je pense que...
Il y a Jaden Struble qui est un petit bobo aussi, qui était un cas douteux, n'avait pas joué au Colorado. Struble, en même temps, est-ce que Struble a aidé son équipe à revenir au jeu hier? On peut se poser la question. Puis, Guillaume, tu sais, t'as parlé d'Adam Engstrom. Est-ce qu'on arrive près du moment où on se dit, mais on va lui donner une chance pour être le partenaire de Lane Hutson? Est-ce que Engstrom, Hutson, même si Engstrom n'a pas assez d'expérience, c'est un bon patineur qui peut jouer autant du côté gauche que du côté droit. Est-ce que ça serait de lui donner de trop grosses bouchées?
Ouais.
C'est fort possible. Mais
est-ce que c'est le style de jeu qui met en valeur Lane Hutson?
Ben, c'est deux joueurs qui patinent bien. C'est deux joueurs qui ont de bonnes visions. Ce n'est pas un défenseur hyper défensif. C'est pas le plus physique non plus. Mais écoute, tu as peut-être besoin d'essayer une autre combinaison, parce que Struble, tu lui as donné plusieurs matchs avec Hutson depuis la perte de Goulet. En même temps, Engstrom, si tu demandes à peu importe le recruteur du côté de la Ligue américaine, il était trop fort pour la Ligue américaine depuis plusieurs semaines. Tu veux souvent placer tes joueurs à des positions où ils peuvent réellement prendre leur envol. Je me demande si c'est... Ça coûterait pas cher de l'essayer, Engstrom et Hutson. On l'a vu un petit peu là, dans le récent voyage là, du côté de... Engstrom, c'était Salt Lake City et Colorado, je crois, qu'il a joué. Mais bon, Colorado, c'est un match à oublier pour tout le monde. Là.
Sinon, oserais-tu séparer la paire Matheson-Dobson pour placer Hutson avec Matheson puis Dobson avec Struble?
Ou Hutson avec Dobson, mais en même temps, là, tu viens déséquilibrer tes trois paires, ta défensive en entier. Non, mais c'est une bonne question.
Ça n'a pas fonctionné. À un moment donné, c'est que tu es Martin Saint-Louis, il faut que tu envoies un message en quelque part. Peut-être que c'est pas nécessairement... C'est parce que cette première paire-là, elle va vraiment bien, mais justement, tu parlais de rappeler Samuel Blais. Là, tu brasses la soupe comment? Là, parce que hier, c'était vrai. C'est que ce soir, tu as une occasion. Puis là, tu as une occasion de brasser la soupe. Justement, si tu amènes quelqu'un, tu ramènes Blais sur la ligne orange du métro, de sortir des gars qui sont dans l'alignement depuis un petit bout, puis de tourner, tu sais, vraiment tourner la soupe au complet, là, parce que faut que tu essayes d'autres choses.
Ben, le problème.
Juste où est-ce que. Tu ne cèdes pas à la panique à cause de ce qui s'est passé dans l'Ouest où tu as eu, somme toute, un bon voyage.
Ouais, mais je sais pas, tu sais, est-ce qu'on était si convaincus que tout était derrière, que les problèmes étaient choses du passé après ce voyage-là? Tu sais, je pense que ça a été des bons matchs. On a bien joué, on a gagné. Ça a été important pour le moral de l'équipe, mais je veux dire, c'est... La preuve que c'est pas réglé puis que c'est une formation qui tient avec de la broche en ce moment, c'est la performance d'hier contre les Sénateurs. Tu sais, oui, c'est un match, mais tu regardes le dernier mois puis c'est de l'inconstance, c'est des montagnes russes, puis ça, c'est un symptôme d'une équipe qui a plusieurs trous. Puis le problème en défensive, oui, Engstrom, je suis prêt à l'essayer avec Lane Hutson, parce que moi, j'ai l'impression depuis le début de la saison que Hutson le prix de jouer avec Struble, peut pas être 100% lui-même. Et Carrier, qui est pas l'ombre de ce qu'il était l'an dernier avec Jacky, ça commence à lui coûter cher. Puis tu sais, je pense qu'il ne dira pas comme ça, puis il va lui prendre la blâme sur ses épaules, mm-hmm. mais c'est certain que ça ne l'aide pas. Tu sais, Carrier, je pense, l'an dernier, a joué beaucoup avec Caden Gooley. Là. Ça l'a quand même aidé à... C'est sûr que tu te poses moins de questions quand tu joues avec Caden Gooley que quand tu joues avec Herbert Jacquet. Fait que tu sais, tu as deux défenseurs sur tes trois paires qui sont des problèmes, je le mets en guillemets, qui devraient peut-être être des sixièmes défenseurs et ne pas mm-hmm. jouer, sixième, septième défenseur, et ne pas jouer tous les matchs dans une formation en pleine santé avec un peu plus de profondeur. Fait que c'est certain que là, tu peux rebrasser les cartes autant que tu veux. Le problème demeure là, puis c'est un qui est lié aux blessures et peut-être à la jeunesse, le manque de profondeur de cette formation.
Tu parles justement de jeunesse. Est-ce que les Canadiens, c'est une équipe qui est streaky, qui fonctionne en séquence? Là, je reviens à l'an passé. L'an passé, ça avait été ça. Là. Ça a été des super bonnes séquences puis des séquences complètement désastreuses. Ça vient avec l'expérience. Puis justement, est-ce qu'on est... Puis ça serait peut-être une question à poser à Martin Saint-Louis. Est-ce qu'il considère que son équipe a le niveau d'expérience pour éviter de tomber dans ces streaks-là? Bon, c'est le fun quand tu tombes dans une séquence positive, mais d'éviter la séquence négative dans laquelle on est présentement. Parce que comme je dis, l'Ouest, ça s'est pas mal passé. On a sorti un peu la tête de l'eau, là.
Mais en partant, c'est une équipe qui présente deux visages en grande partie depuis le début de l'année. Si tu fais juste regarder l'affiche à la maison, sur la route, pas besoin de regarder les séquences. Là. À la maison, c'est 6-6-1, je crois. 6 victoires, 6 défaites, un revers en prolongation. Sur la route, 7-3-2. Donc, il y a quand même un déséquilibre important entre les deux. Puis Martin Saint-Louis, je sens qu'il... C'est André Roy qui parlait à RDS cette semaine puis qui disait qu'il a revu un petit peu John Tortorella à Martin Saint-Louis. C'est pas surprenant. Quand au lendemain...
C'est pas bon signe non plus.
C'est pas bon signe, non, mais dans le sens où c'est lundi matin à Brossard, après l'entraînement du CH, où il prenait une petite portion du blâme pour la défaite quand même cinglante contre l'Avalanche en disant que c'était lui qui avait mal préparé ses joueurs, il était trop passif, pas le bon échec avant en zone neutre. Puis André Roy disait que ça lui rappelait justement Tortorella qui voulait... éloigner la pression de ses joueurs puis garder ça sur ses épaules. C'est peut-être la stratégie que Martin voulait prendre. Il a voulu protéger ses joueurs après un match difficile contre l'Avalanche, mais ses joueurs n'ont pas répondu au match suivant contre les Sénateurs où c'était un match de division, c'était un match important. Ça change tellement vite au classement. Là. Hier matin, le CH se réveillait et était troisième de sa division. Puis mercredi matin, ils sont assez loin, mais c'est encore, là, c'est un paquet d'équipes dans l'Association de l'Est. C'est fou comment est-ce que c'est serré. Là.
À l'inverse, les Sénateurs, hier, étaient, je pense, comme 4e, 5e as, puis ce matin, ils sont 2e dans l'Est. Ça va rapidement. Écoute, la saison est encore jeune, puis tout ça. Là, donc c'est tellement plus serré cette année. Tous les petits points que tu vas chercher ici et là, ça va faire une différence à la fin.
Mais Nick, pour venir à la question de base, oui, la constance est un enjeu. T'as beaucoup, beaucoup de jeunes dans l'équipe, fait que ça peut expliquer les montagnes russes. Mais quand t'as des vétérans, je veux pas juste frapper sur la tête d'Evans et Anderson ou même Gallagher, mais si ces trois vétérans-là t'en donnent pas autant, mais ça vient de faire mal aussi. Là.
Mm-hmm. Je sais pas si c'est juste une impression, mais les séquences l'an dernier, c'était on les collait ensemble. Là. C'était... mauvaise séquence, on perd tous les matchs. Bonne séquence, on gagne tous les matchs. Puis tu sais, c'était pas... Là, ça fait un mois que c'est du up and down de match en match. Tu sais pas quel visage cette équipe-là va présenter. Puis on revient encore aux blessures, mais je pense que là, on commence à voir vraiment les symptômes de ça. Puis on en a parlé, je pense, c'était pas la semaine passée, c'était v'là deux semaines. On a fait des acquisitions à l'attaque. On est allé chercher... un Alexandre Texier, on a réclamé un Samuel Blais qu'on pourrait voir bientôt. En défensive, il va falloir qu'il se passe quelque chose. C'est Engstrom, mais le défenseur d'expérience dont on parlait il y a quelques semaines, on ne l'a pas encore trouvé. Je reviens avec Marc Delgaiso qui est une solution à l'interne, mais ça coûterait quoi de lui donner un match, d'essayer un peu... Il apporte un peu plus de robustesse. Il est peut-être un peu plus fiable défensivement qu'un Jacky. Je l'essaierais, mais je pense que c'est inévitable. Je pense que Kent Hughes est en train de j'imagine qu'il essaie de trouver des renforts à la ligne bleue parce que c'est ça en ce moment qui commence à coûter cher à son équipe.
Il revient quand au jeu, là, Kaden Gooley?
c'est ça, on commence à compter les dodos. Là. C'est un peu ça. Comme... on compte les dodos pour Noël, puis pour le retour au jeu.
Présentement, là, Martin Saint-Louis, dans son bureau, il y a un calendrier de l'Avent, puis chaque journée, il ouvre, puis c'est un plaster dedans, puis c'est Kaden Gooley qui est à la place du Père Noël. C'est un peu ça, là, parce que tu vois toute l'importance que ce joueur-là a pour la stabilité de l'équipe, pour mettre tout le monde dans le bon siège. Sauf que ce qui est inquiétant, c'est qu'au nombre de fois qu'il s'est blessé en carrière, puis ça semble continuer, bien là, tu te demandes à un moment donné... Vas-tu pouvoir compter sur lui à long terme dans ce siège-là qui est tellement important? C'est pas simple. J'ai l'impression que pour les Canadiens, ça sera pas simple pendant tout le mois de décembre. Je sais pas ce que vous voyez avec les matchs qui s'en viennent, mais là, ce soir, c'est Winnipeg, Toronto la semaine prochaine. Ensuite, on va avoir un duel contre les Blues, contre le Lightning. Oui, les Blues dimanche et le Lightning par la suite. Le Lightning qui roule pas à peu près présentement. J'ai vraiment l'impression, faut que tu tiennes jusqu'à Noël. C'était tricolore, parce que là, c'est ça, Gaulé, là, c'était 10 semaines à peu près. Là.
C'était 8 à 10 semaines. Ça, c'était... Il devait déjà manquer 4 à 6 semaines, puis il s'est blessé à muscle de l'adducteur, donc il a été opéré. Le 14 novembre, on parlait de 8 à 10 semaines, donc 2 mois minimum, 14 décembre, 14 janvier. C'est pas demain matin qu'on revoit Kaden Gooley.
C'est pas demain matin, là. Puis j'ai l'impression que dans ce dossier-là, il n'y aura pas de cadeau en dessous de l'arbre pour Kent Hughes, pour... le tricolore.
Non, je pense pas que c'est le genre de joueur que tu veux ramener au jeu plus vite que prévu. Là. Je pense qu'on va lui donner tout le temps de bien guérir. Mais hier, dans le vestiaire, hier matin, on parlait de la séquence, justement. Ce qui est intéressant pour le Canadien, c'est qu'il y a beaucoup de matchs à la maison d'ici Noël. On a une semaine
mais
où
faut
on joue
que gagnes
quatre
à
fois
maison.
À la maison.
C'est ça.
Oui, oui. Non,
c'est manière que tu joues, manière que tu joues à la maison depuis le début de la saison, c'est pas nécessairement positif.
Ben exactement. Tu sais, on parlait de la forteresse, puis on veut faire un centre du Centre Bell, une forteresse. Là, la fiche laisse beaucoup à désirer. Puis on ne donne pas l'occasion.
C'est plus comme le château à la fin de la guerre des tucs. Tu comprends ce que je veux dire? Question quiz pour les gens à la maison. Je pense qu'il y a 3 fanions d'équipe de la Ligue nationale de hockey dans les restes du château. Une fois que ça tombe, nommez-moi-les, envoyez-moi ça. Je suis curieux de savoir s'il y a quelqu'un qui connaît ça. Connais-tu ça? Toi, regardez-tu?
Non.
J'ai
déjà écouté, mais je connais pas les drapeaux.
Il devait y avoir les Canadiens. Les Canadiens.
Il n'y a pas les Canadiens.
Non?
Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas les Canadiens.
Les Nordiques.
Il y a les Islanders. On est dans les années Mike Bossy. Je crois qu'il y a les Nordiques et si je me souviens bien, il y a les Whalers d'Arthur.
Les Whalers, ouais.
Je vais aller écouter le film tantôt, puis je reviens avec ça. C'est ce que je fais sur mon chiffre de travail. Non, c'est pas vrai. Mais écoute-le.
Pour revenir à ce que je disais, c'est qu'on donne pas l'occasion à la foule de se ranger derrière l'équipe. T'sais, hier, non. On commence le match en force, Slavkovski marque un but. On se dit, bon, OK, tu sais, gros retour à la maison. Là, la foule somme un peu de la partie. Je pense 20-30 secondes. Jake Evans, Josh Anderson perdent la couverture. Confusion en zone défensive. Fabian Zetterlund, fin seul en haut des cercles. Crée l'égalité tout de suite. Donc, dans les matchs à domicile, on se donne pas... On s'aide pas vraiment du côté des Canadiens. Puis on peut pas bénéficier de l'énergie du Centre Bell comme on le faisait à la fin de la saison dernière.
Mais les gars, on va quand même donner le crédit aux Sénateurs. Parce que là, on parle beaucoup de ce qui n'a pas marché chez les Canadiens. Mais les Sénateurs, ce matin, comme on a dit, on se réveille, ils sont à la deuxième place de la section Atlantique. Et surtout, on a survécu sans Brady Tkachuk, qui est venu au jeu. Hier, c'était son troisième match depuis qu'il est revenu de blessure. Je regarde cette équipe-là, je regarde un Zetterlund qui commence à trouver son aise. On sait, on a été le chercher l'année dernière à la date limite des échanges. Je regarde cette équipe-là. On a souvent dit que les Sénateurs et les Canadiens ont un parcours similaire de croissance, une courbe de croissance qui est similaire. Mais quand je regarde cette équipe-là, je la trouve mieux équipée à long terme pour du hockey de séries éliminatoires. Hier, c'était un match, ça aurait dû être un match de séries éliminatoires. J'aime ce que je vois. Je ne sais pas si ça va donner une Coupe Stanley à long terme, mais j'aime ce que j'ai vu des Sénateurs avec Linus Ullmark qui, lui aussi, là, sur place, là, tout ça. Puis on est sans Thomas Chabot en plus. Une belle petite équipe de hockey, les Sénateurs. Là.
Oui, mais De là à parler d'une possible Coupe Stanley, je ne crois pas dans un horizon à
long
terme.
C'est une équipe
qui va se battre pour une participation série. Tim Stoudler, Brady Tkachuk, Kendrick Batterson, il y a du talent. Il y a aussi de l'expérience. Puis hier, vous le savez, je n'étais pas au Centre Bell, étant donné que je jasais plus souvent qu'autrement dans ma salle de bain. Mais à la télé, Pierre-Houd, Marc Denis parlaient souvent de l'expérience d'ajouter des joueurs. T'as David Perron qu'ils ont acquis l'an dernier, t'as Lars Eller qu'ils ont acquis cette année, t'as Claude Giroux qui est là depuis plusieurs saisons, mais ça, c'est trois joueurs de 1000 matchs et plus. 1200 hier pour David Perron, 1300 pour Giroux. Donc, à l'attaque, t'as de l'expérience. À la ligne bleue, c'est rien de trop sexy ou quoi que ce soit, mais Jake Sanderson est très, 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 très bon. Ça, il n'y a pas de doute. Artem Zub est probablement sous-estimé comme défenseur dans la Ligue nationale. C'est un gars qui fait un bon boulot. Mais après ça, tu as Claven, tu avais Mantin Palot, qui est un grand défenseur. C'est un petit match tranquille. Ils vont limiter les erreurs, qu'ils vont jouer safe. Mais ce boulot-là qu'un Mantin Palot peut faire avec les Sénateurs, c'est ça qu'Arber Jackay pourrait faire également. Donc, on verra. Les Sens, la dernière fois qu'ils avaient joué contre Montréal, on avait le discours inverse. CH avait connu une meilleure rencontre. Je pense ce serait intéressant de voir ces deux équipes-là en série. Ça, j'aimerais ça. Il y aurait une belle animosité, puis ça serait du bon hockey aussi.
Hier, le spectacle n'a pas été à la hauteur, là, mais hier matin, tout le monde se passait la réflexion dans les coulisses du Centre Bell. Ça avait l'air d'un matin de match de série. Là. Honnêtement, le scrum, là, le point de presse de l'entraîneur Travis Green hier matin... On était peut-être une quinzaine, si c'est pas 20. Puis il n'y a pas beaucoup de collègues d'Ottawa qui voyagent, mais on sentait qu'il y avait une effervescence, un engouement pour ce match-là. Finalement, ça n'a pas été très, très bon comme spectacle. Ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on avait mis. Là. On avait bien placé, on avait bien mis la table pour ce duel-là. On s'attendait à quelque chose de divertissant au moins. Puis finalement, ça a été plus divertissant, disons, pour les partisans des Sénateurs qu'autre chose.
Tu as parlé à David Perron hier matin, justement. Comment il voit ça, cette équipe-là? Comment il voit ce qui se passe avec lui, 37 ans, la fin de la carrière qu'il ne veut pas qu'il approche? Est-ce qu'il se voit grandir encore dans cette équipe-là? C'est sa dernière année de contrat. Puis c'était son 1200e match en plus dans la NHL. Donc, c'était une sortie qui était importante. Je ne sais pas si il y avait peut-être quelques petits dollars sur la table pour aller chercher ce match-là à son 1200e, mais il voit ça comment, Perron, tout ce qui se passe chez les Sénateurs?
Ben, il voit ça d'un bon œil. Là. Je pense qu'il l'a dit, le fait d'arriver dans une équipe jeune qui est dans un cycle où on se bat pour une place en série, où on veut franchir des étapes, ça le motive. T'sais, à 37 ans, tu veux pas nécessairement finir ta carrière dans une équipe qui perd et qui n'a pas aucun espoir de faire les séries et d'accomplir des choses. Donc lui, ça lui a donné quand même un nouveau souffle d'arriver dans le vestiaire des Sénateurs. Puis il a dit à un certain moment qu'il espérait pouvoir continuer pendant encore quelques saisons. Je pense que c'est un bon vétéran qui fait un travail honnête, qui a un bon leadership, qui a de l'expérience. Il y a deux finales de la Coupe Stanley, une conquête derrière la cravate. Donc pour les Sénateurs, c'est certain que c'est très, très, très important. Puis il disait... Ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'il disait, là, mon gars, c'est Mason, je pense, son plus vieux, il y a 10 ans, commence de plus en plus à être pleinement conscient là, de ce que son père fait dans la vie et tout ça. Puis il dit ça me redonne aussi de la motivation parce que je veux lui donner des vrais souvenirs là, de moi qui joue dans la Ligue nationale. Il dit, tu sais, on a gagné la Coupe Stanley en 2019. Il avait 4 ans à ce moment-là, puis dans sa tête, il se disait, il va s'en souvenir.
C'est la norme, c'est ça, ouais.
Il va se souvenir, puis finalement, tu sais, le petit gars de 4 ans, il y a des photos, il y a des vidéos parce qu'on est à notre époque. C'est sûr que ça fait des beaux souvenirs, mais il dit, je veux vraiment, il en créer. Puis là, il dit, on se parle au téléphone quand je suis sur la route, puis il regarde les faits saillants, puis il me parle des matchs et tout ça. Donc, pour lui aussi, c'est ça qui est plaisant. Il dit, j'ai toujours eu du plaisir à jouer au hockey, mais en ce moment, j'en ai plus que j'en ai jamais eu parce que, justement, tu sais, le contexte est différent, son contexte familial et tout. Donc, ça a été une rencontre assez sympathique avec David Perron hier matin.
Les gars, en terminant, bon, Jets de Winnipeg, ce soir, les gens à la maison, si vous écoutez jeudi, là, désolé, là, c'est la réalité du calendrier.
On ne peut pas parler de la victoire de 6-0 du Canadien.
C'est ça. Oh,
c'est un grand rebondissement.
Mais c'est surtout soirée André Markov, les boys. Hein.
C'est ça, soirée André Markov. Et 6-0, ça se peut parce que Connor Hellebuyck n'est pas là chez les Jets. Depuis ce temps-là, c'est très difficile, ce qui explique pourquoi on sous-performe présentement à Winnipeg. Et par la suite, Toronto en fin de semaine, c'est deux bêtes blessées. Là, oui, Austin Matthews est revenu, ça va peut-être relancer les Maple Leafs, mais c'est deux matchs qui, normalement, ne devraient pas l'être, mais qui sont à la portée du tricolore. Vous attendez à quoi pour terminer votre portion de balado?
On verra, mais après la défaite du côté de Buffalo, apparemment qu'Adam Laurie, capitaine des Jets, et les coéquipiers ont passé de longues minutes dans le vestiaire à laver du linge sale en famille. Donc, le match suivant, ça donne que c'est à Montréal. Possible que les Jets pourraient rebondir. Et les Maple Leafs.
Les Jets étaient en congé hier à Montréal aussi.
C'est pas nécessairement bon signe, ça.
Non, ben, mais non. Techniquement, t'as des jambes plus fraîches que si t'as joué. Techniquement. L'autre, les Maple Leafs, ils ont quand même battu les Panthers hier du côté de la Floride.
Ouais,
c'est un match qui, si t'as pas de motivation non plus contre les Maple Leafs un samedi soir à Toronto, t'as plusieurs joueurs de l'équipe aussi qui sont ontariens. Donc, on verra, mais moi, pour ce soir, j'ai surtout hâte, les gars, aux retrouvailles avec André Markov. C'est un des très bons défenseurs qui a porté l'uniforme du CH. 990 matchs pour André, 46 ans. Tu sais, on se pose des questions, on cherche un défenseur. Le temps d'un soir, je me demande si à 46, Markov ne serait pas encore capable. J'ai eu le bonheur de couvrir André Markov. C'est un bonheur de le regarder du haut de la passerelle de presse. C'est un joueur qui était tellement intelligent, un bon passeur, bon partout. Mais en entrevue, ça n'était pas toujours facile avec André Markov. Je pense qu'il avait une très, très, très grande timidité. C'était pas une mauvaise personne, mais je me souviens un matin à Détroit. Je crois que Markov joue son 900e match avec National. Il y a une poignée pourquoi je me dis, bon, ben, ce matin, je parle à André Markov. Je fais une entrevue avec André Markov, je suis seul à seul avec lui, puis ça doit durer 3 minutes, mais sur le 3 minutes, il n'y a pas loin de 10 questions. Puis c'est des réponses de 2 mots, 3 mots, 4 mots, tu sais, je comprends que ça y tente pas trop. Puis je finis l'entrevue, puis il y a Shea Weber qui me tape sur l'épaule en me disant « Ouf, j'ai hâte de lire ce papier-là, c'était bon. » Donc ça illustrait un petit peu André Markov. Disons qu'il parlait un petit peu plus sur la glace. Puis l'autre histoire, je me souviens avec lui, Ryan O'Byrne avait ses meilleurs moments avec le CH. Ça fait 3 ou 4 matchs qu'O'Byrne joue avec Markov, puis il joue son meilleur hockey. Là, on se dit « OK, c'est le défenseur qu'on croit voir chez le Canadien, un grand défenseur droitier qui va enfin prendre son envol. » Puis on pose la question à Markov, qu'est-ce que t'en penses de Ryan O'Byrne? Puis sa réponse avait été, venez me revoir après une 20aine de matchs, on parle de 3 matchs. Finalement, c'était cru, mais c'était pas mal la vérité dans le cas
d'André Markov. C'est une bonne philosophie à avoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'emportent avec des échantillons très, très courts.
Ouais, je sais pas, qui t'aurait en tête, Guillaume.
mais c'est quand même pas rien parce que c'est cette façon-là que Markov a trouvé. C'est la manière la plus politiquement correcte qu'un André Markov est capable de répondre à ta question. Ouais. Donc, ça en dit long sur imaginez ce qu'il pensait en arrière de sa tête puis ce qu'il aurait pu dire.
Mais mon bon vieux collègue du journal Joe Byrne, Jonathan Bernier, avait réussi à percer le mystère André Markov en le rencontrant chez lui en Russie, où il s'était assis pour une plus longue entrevue. Puis à son retour de son voyage en Russie, il me disait que c'était la première fois qu'il voyait comme le réel visage, l'humain. Comme il s'était peut-être gardé une barrière trop longtemps du côté de Montréal. Mais je suis convaincu que ce soir, il risque d'être ému, touché par l'accueil de la foule. Puis avec les journalistes, ce soir, il devrait être beaucoup plus généreux qu'à l'époque où il portait le 79 et qu'il jouait pour le Canadien.
J'aime comment tu fais comme si tu allais être au match ce soir alors que tu vas siroter du Pédialyte en regardant
Je pense
télévision.
Que c'est plus sage. J'ai parlé à ma conjointe. J'appelle souvent Fanny tôt le matin. J'ai appelé Fanny. Fanny me dit « Tu peux pas. Tu peux pas travailler. Tu peux pas. T'es encore contagieux. Tu peux pas. »
Elle t'a vu, c'est ça.
Ouais, mais dans ce temps-là, il faut que tu écoutes la madame. Ouais. Donc, après le téléphone avec la madame, j'ai appelé Guillaume pour lui informer de mon absence très probable. J'ai appelé le patron aussi. Des appels difficiles, ça, les gars. Tu veux pas vivre ça
manquer,
trop souvent.
Ben oui, va manquer les retrouvailles avec Markov et aussi avec l'ancien collègue Robert Laflamme qui sera de passage sur la galerie de presse.
Ça, c'est triste,
Centre Bell ce soir. Fait que c'est beaucoup. Tu manques beaucoup de choses ce soir.
Deux légendes ce soir.
Oui, exactement.
Exactement. Hey les gars, merci d'avoir été là aujourd'hui, surtout toi, GF, mais Guillaume, je l'apprécie tout autant de votre présence.
Je vous laisse y aller.
Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se reparle la semaine prochaine.
40 minutes sans visiter le bol.
Au revoir.
Bye bye, à bientôt.
Au revoir, salut. On poursuit l'émission avec notre prochain segment. On va parler poolers. Ouais, on n'en a pas encore parlé depuis le début de la saison, mais je pense qu'un petit spécial poolers s'imposait alors que le mois de décembre commence. Donc, il y en a qui regardent peut-être pour des cadeaux dans leur pool. Il y en a d'autres qui ont peut-être magasiné le Black Friday pour un attaquant ou un défenseur ou peu importe. Donc, on va y aller de vos recommandations. Je l'accueille avec moi, Hugues Marcel. Salut, Hugues!
Salut, Nick. Comment ça va?
Ça va bien, Hugues, que vous connaissez si vous écoutez le podcast depuis plusieurs années. C'est ta première cette année, par contre, je pense, Hugues.
Oui, je pense que oui, si je me souviens.
C'est pas qu'on t'aime pas, c'est pas qu'on veut pas t'inviter, ça a juste pas... Non, c'est pas vrai, c'est pas ta première. T'as fait les spéciales poolers en début de saison.
Oui, c'est vrai, on a fait les spéciales poolers, donc c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle de poolers, ben je suis là, donc aujourd'hui, c'est ça qu'on fait.
Exactement, tu signes une chronique sur LNH.com chaque semaine avec les joueurs en hausse, les joueurs en baisse. Donc, tu parles tout ça, tu analyses vraiment ce qui se passe aux quatre coins de la Ligue. Donc, effectivement, ça te prenait. Il fallait que tu sois là aujourd'hui sur le balado. On va parler, on va y aller. Écoutez, on va parler un peu, on va regarder les dossiers à surveiller présentement du côté des poolers. On va y aller un peu, là, un petit quiz, là. Je ne sais pas si on peut appeler ça de même, mais ça tient ou ça casse. Donc, on va regarder certains joueurs qui performent présentement. On va se poser la question, est-ce que ça va se poursuivre ou ça ne sera pas le cas? Et finalement, on va y aller chacun d'une recommandation et d'un joueur à éviter pour la suite de la saison. Hugues, écoute, on enregistre ça là, aujourd'hui. On est mardi. Là. Le balado va sortir mercredi, mais on est mardi au moment où on enregistre. On voulait que le balado sorte rapidement vu que les Canadiens jouent plus tard en soirée. Donc, les gens qui nous écoutent, bon, les statistiques seront peut-être pas là, à jour. C'est pas grave, un point de plus, un point de moins. Au final, là, ça fait pas grand-chose. Je pense qu'on va être correct. On y va, Hugues, avec le premier dossier à surveiller. Jack Hughes, qui s'est blessé dans un souper d'équipe.
Ouais.
Je sais pas si ça te rappelle tes super université, mais disons que c'est des choses qui peuvent arriver, des soirées qui sont festives, de petits accidents, mais c'est ce qui est arrivé à Jack Hughes. Là, on parle encore de quelques semaines d'absence dans son cas. On regarde des joueurs qui le remplacent. Okay? Tu regardes des joueurs présentement, Jack Hughes qui est remplacé en gros là, par Nico Hischier. C'est vraiment ça sur le premier trio. Pas qu'Hischier n'est pas un joueur qui ne mérite pas le titre de premier trio, à vrai dire, commence à être habitué là, avec la façon qu'on performe chez chez Jack Hughes au niveau de l'infirmerie. Je pense que c'est là où on performe peut-être un peu trop bien dans les dernières années au niveau de l'infirmerie. Tu penses quoi du dossier Nico Hischier? Tu regardes ça présentement, tu regardes Jack Hughes. Nico Hischier est un joueur qui prend beaucoup de valeur hein, présentement.
Ben absolument, simplement parce que bon, c'est lui qui hérite vraiment de toutes les responsabilités offensives. Bon, plus de temps de jeu à 5 contre 5. Là, présentement, est utilisé avec Jesper Bratt. Hier, je regardais le match des Devils, puis c'était vraiment cette unité-là qui tournait sans cesse. Bon, ils vont me dire qu'ils ont perdu contre les Blue Jackets de Columbus hier,
ça
mais
arrive,
quand même,
ça arrive.
Ils ont joué un bon match. Il était partout sur la glace. Donc, c'est vraiment lui qui embarque dans ses. Il a beau être avoir l'étiquette du joueur peut-être un peu plus défensif, là, on voit vraiment comme une distinction entre Hughes, qui est vraiment le centre plus offensif, et Hischier, qui est peut-être le gars un peu plus la conscience défensive des deux gros centres des Devils. C'est quand même un joueur capable de contribuer offensivement. Donc, oui, comme tu le dis, Nico Hischier qui en profite. C'est un joueur à cibler pour cette raison-là, simplement juste parce que là, il va être utilisé à toutes les sauces avec les meilleurs joueurs possibles en avantage numérique. Bon, il l'était déjà, mais bon, il va simplement juste jouer plus, donc c'est le moment d'en profiter. Il met beaucoup de points au tableau déjà, puis ça va se poursuivre en l'absence de Hughes.
Tu regardes un peu le joueur de puissance des Devils. Il y en a un qui obtient là des plus de minutes, c'est Dawson Mercer, mais... Mercer, honnêtement, depuis qu'il est dans la Ligue nationale de hockey, offensivement... c'est pas, tu sais, il n'y a pas eu de progression offensivement dans son cas. Là, obtient le premier l'avantage numérique. Est-ce qu'à ce moment-là, ça devient un joueur qui est tentant pour toi ou on reste un peu loin? C'est un gars, comme je dis, là, dans nos projections au début de saison, que si tu compares à quelques années, il a perdu de l'intérêt là, de notre part.
Ben, je dirais pas que c'est un joueur envers qui j'ai perdu de l'intérêt, mais effectivement, je dirais pas non plus que c'est la première option vers laquelle je me tournerais du côté des Devils présentement. C'est ça. C'est, je pense que c'est un joueur qui fonctionne un petit peu par séquence aussi depuis le début de sa carrière. Donc, c'est peut-être plus un, ce qu'on appelle en anglais un streamer, là, une option qu'on va chercher pour quelques matchs, une semaine ou deux, puis après ça, qu'on remet au balotage, là, dépendamment si votre format de pool vous le permet. Moi, c'est un petit peu plus comme ça que je le vois. Dawson Mercer, présentement, il fonctionne très bien. Oui, je joue sur la première vague d'avantages numériques. Moi, Nick, un autre que je trouve qui en profite présentement, c'est Timo Meier. Avant la blessure de Jack Hughes, il jouait 2 minutes 9 en avantages numériques. Il y avait 14 points en 17 matchs, 5 points en avantages numériques. Depuis la blessure de Jack Hughes, il y a 8 points en 9 matchs, 4 points en avantages numériques. Donc, tu sais, presque le même nombre de points en avantages numériques en deux fois moins de matchs. Puis là, il est présentement sur une séquence de 6 matchs avec au moins un point. Donc, t'as oui, un Mercer qui fonctionne très bien par séquence, mais t'as un Meier aussi qui fait très bien, qui profite un peu des responsabilités offensives additionnelles qui s'ajoutent pour lui. Donc, moi, c'est une option que je regarde aussi. Et Mercer, tu as raison de le souligner, mais Meier aussi, je trouve qu'il vaut vraiment la peine de souligner pour les pooleurs présentement. Écoute, surtout qu'on sait que lui, ça n'a pas été. Dans les dernières années, ça n'a pas toujours été super facile.
Non, c'est ça. Son arrivée avec les Devils, ça a toujours été un petit peu. Ça n'a pas levé autant qu'on aurait voulu. Mais tu sais, tu regardes Meier, là, il avait 5 points d'avantage numérique en 17 matchs depuis le début de la saison. Et là, depuis que Jack Hughes s'est blessé, Meier, c'est 4 points en 9 matchs. Donc, c'est si ça. Il va avec une petite règle de 3, ça regarde bien pour lui. Donc, d'ici à ce que Hughes revient, c'est les deux joueurs à cibler, je pense, chez les Devils. Autant Ishier et Meier, donc la filiale suisse des Devils qui connaît du succès pendant que Jack, connaît du succès, semble-t-il, hors de la glace avec une certaine chanteuse canadienne. En tout cas, on leur souhaite. Ça serait un peu royal comme couple. Hein?
Oui, ça serait Power Couple.
Power Couple, exactement. Si,
un peu dans la lignée des. Tu sais, t'as comme. Ce serait la troisième. T'as Travis Kelce, Taylor Swift, Levy Dunn et Paul Skeens dans la MLB. Puis là, on pourrait avoir Jack Hughes et Tate McRae dans la LNH. Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Écoute, nous, on est toujours partant pour des bons potins. Je t'amène du côté du dossier chez les Rangers. Adam Fox qui s'est blessé dans le match de samedi contre le Lightning. Tu regardes cette équipe-là, puis Mike Sullivan a pas mal donné la réponse à la question qu'on se posait. Est-ce qu'il y a réellement une autre option offensive chez les Rangers pour le jeu de puissance, pour faire marcher cette équipe-là sur la relance? Ben non, hein, parce qu'on va utiliser 5 attaquants sur le jeu de puissance. Donc, Will Cooley qui s'ajoute en remplacement d'Adam Fox. Lafrenière, qui n'est pas sur le premier jeu de puissance présentement, ça te surprend et tu t'attends à quoi là, de cette équipe-là avec la perte de Fox?
Ah ben je m'attends à ce que ça soit difficile simplement. T'sais, un joueur comme Fox, c'est un joueur tellement important dans la relance. T'sais, juste à 5 contre 5, c'est un gars tellement important quand c'est le temps de diriger un jeu de puissance. Il est juste tellement crucial au succès offensif de cette équipe-là. Puis malheureusement, chez les Rangers, il n'y a personne d'autre en défensive qui peut occuper ce rôle-là. Je regardais les statistiques là, avant qu'on entre en onde. T'as Adam Fox qui a 26 points en 27 matchs. T'as Vladislav Gavrikov qui a 11 points en 27 matchs. Puis après, t'as aucun autre défenseur qui a plus que 5 points chez les Rangers présentement. Donc, il n'y a pas de miracle à faire dans cette situation-là. Puis je pense que Mike Sullivan le constate un petit peu. Puis c'est la raison pour laquelle il est arrivé avec une formation à 5 attaquants en avantage numérique. C'est Will Cooley là, qui a... Tu parlais de Lafrenière. Bien, c'est Will Cooley finalement qui obtient la chance de se faire valoir avec les gros canons d'équipe. Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être être fluide là, dans les prochains jours, des choses qui pourraient changer. Si ça fonctionne avec Cooley, on ne changera rien. Mais peut-être que si ça ne fonctionne pas, qu'on continue à connaître des déboires offensifs au Madison Square Garden, ben là, peut-être qu'on va rentrer un Lafrenière sur la preuve du jeu de puissance. Je sais que tu voulais en parler, mais peut-être un Scott Morrow qui va pouvoir. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas.
On a rappelé Scott Morrow de Hartford. Morrow qui a été obtenu dans la transaction rookie Andrew Miller. Mais Morrow, ça allait pas super bien avec Hartford cette année. 3 points en 12 matchs. Monde avec National d'Hockey, 1 point en 4 matchs cette année. Avec les Hurricanes, ils avaient fait 6 points en 14 parties l'année dernière. Ça avait bien été un game américain d'Hockey, mais je suis pas certain. Gad Morrow, là, présentement, 23 ans, si ça avait été un défenseur très offensif, capable de progresser dans cet aspect-là du jeu, parce qu'il l'a déjà été très offensif quand il était dans la NCAA, je pense qu'on l'aurait su, donc je ne suis pas convaincu. À vrai dire, c'est Kendrick Miller que ça aurait pris pour prendre la relève. On ne l'a pas. C'est pas bon signe pour la suite de la saison des Rangers.
Non, pas du tout.
Connor Hellebuyck, bon, a été opéré au genou. 4 à 6 semaines d'absence dans son cas. On l'a opéré au niveau du timing. On aurait pu attendre encore un petit peu plus, mais semble-t-il... Tu sais, j'ai l'impression qu'on voulait être certain de pouvoir l'utiliser aux Olympiques, l'avoir en fin de saison, tout ça, s'il y a des retards. Donc, c'est Eric Comrie qui prend la relève devant le filet et jusqu'à présent, ça va pas très bien pour Comrie. Vois-tu, au total, depuis que Hellebuyck est blessé, 1 victoire, 4 défaites pour Comrie, pourcentage d'arrêt 877. Réellement, tu fais quoi si tu es les Jets, si tu es un pooler? Comrie aurait pu être une option, tu sais, un adjoint qui vient prendre la relève et qui est payant le temps de quelques semaines. Mais réellement, vois-tu ça changer prochainement? Ou les Jets? Ça regarde pas bien pour les Jets.
Ça regarde pas bien. Puis, tu sais, les Jets, s'ils poursuivent leur glissade actuelle, pourraient rapidement se retrouver en dehors du portrait des séries. Puis, tu sais, après ça, ben, tu joues du hockey de rattrapage. Puis, il y a rien qui t'est garanti. Tu sais, c'est pas garanti que tu vas pouvoir revenir dans les séries. C'est pas facile parce que c'est extrêmement relevé la compétition dans l'Ouest. Écoute, ce que je fais, si je suis un pooler, malheureusement, tu sais, à l'époque, il est pas blessé pour 3-4 mois. Je pense que je m'accroche, puis j'espère, tu sais, j'essaye de me garder à flot. Il y a quand même
ça dépend de ta position. Tu les...
Oui, oui,
si
absolument.
Si tu as Hellebuyck, tu fais quoi? Tu l'échanges, tu gardes. Oui, tu vas pouvoir voir la lune contre un bon gardien. Si tu parles à une équipe qui est en reconstruction, qui ne vise pas les grands honneurs cette année, Hellebuyck a encore une valeur incroyable. La question, c'est tu t'accroches-tu après lui d'ici à ce qu'il revienne dans 5 semaines, 4 semaines? Là?
Ben c'est que t'as pas vraiment le choix dans le sens où tu sais il aurait fallu qu'en fait Comrie fasse le travail parce que je me souviens que quand Hellebuyck s'est blessé, on était plusieurs dans mes ligues, dans mes pools, on s'est un peu tous garrochés sur je peux dire ça comme ça garrochés, on s'est un peu tous jetés sur Eric Comrie en se disant bon ben les Jets une bonne défensive, une bonne attaque, ça sera peut-être pas le prochain gagnant du Vezina comme Hellebuyck de devant le filet, mais il va être capable de faire tu sais le minimum la job, puis il avait été super bon Eric Comrie l'année dernière dans le rôle d'auxiliaire, mais on voit que le rôle de numéro un, ben c'est pas comme être auxiliaire, c'est différent, c'est une autre game. Puis
c'est
on le voit avec.
C'est un gars qui cherche aussi, là, je veux dire, Eric Comrie n'a jamais trouvé, ça n'a jamais pu s'accrocher à un rôle dans la LNH où justement il y avait une charge de travail un peu plus élevée. Là.
Non, exact. Puis maintenant, ce que je ferais pour un pooler, tu sais, je regarderais à travers la Ligue nationale présentement, il y a beaucoup de systèmes d'alternance devant le filet. Fait que tu peux peut-être aller chercher un Cam Talbot, un gars qui n'est pas super réclamé dans les pools, un gars qui ne coûtera pas la lune, qui peut peut-être faire le travail. Tu sais, il est un peu en duo avec John Gibson. Il y a Carter Hart qui commence, là, qui va jouer mardi soir. Il y a un gars comme Aki Rushmead aussi, là, ils vont probablement tomber en système d'alternance. Tu sais, du côté de Caroline, tu peux aller chercher voir un gars comme Brandon Bossy, peut-être. Frédéric Anderson. Il y a des options quand
c'est
même.
Délicat,
donc,
c'est délicat en Caroline.
C'est tout à fait délicat, mais c'est le genre d'options qui ne vont pas te coûter cher, qui peuvent te permettre de te garder à flot, de te garder dans la course quand même sans un Hellebuyck, parce que comme je disais tantôt, Hellebuyck, il n'est pas parti pour 6 mois. Là. Il est parti, on disait 4 à 6 semaines, mais c'est fou à quel point, moi je constate ça, à quel point un gardien, ça ne marque pas de but, mais l'impact que ça peut avoir, l'absence d'un gardien sur l'offre.
Souvent, c'est 2 points plus les jeux blancs avec 1, 2, 3 points. Ça dépend de la ligue. Là.
Ouais, puis en ce moment, on dirait que ça joue dans la tête des Jets aussi parce que depuis qu'Hellebuyck est plus là, ben, les Jets sont à 2,57 buts par match. On dirait que leur attaque est tombée à plat. Évidemment,
tu joues en arrière, tu veux protéger ton filet.
Exactement.
Ton
puis là, ils donnent 3,57 buts par match depuis. Avant, ils étaient à 2,78. Donc, ça chamboule vraiment toute la dynamique de l'équipe. Donc, ça vient un peu affecter non seulement les pooleurs qui ont les bucks, mais un peu les pooleurs qui ont tous les joueurs des Jets là, présentement. Mm-hmm. Moi, je le sais, dans mes pools, j'en ai quelques-uns des joueurs des Jets. Puis là, quand l'attaque est à plat, ben ça coûte des précieux points chaque soir.
Il y a à peu près juste Villardy qui fonctionne présentement.
Oui, exactement. Donc, c'est ça. On dirait que ça affecte tout le reste de l'équipe, même si tu aurais... Tu sais, logiquement, tu dirais, ben les Bucks, c'est juste un gardien. L'équipe va marquer quand même. Pas aussi simple que ça, malheureusement. Donc, ça va être à suivre.
Prochain dossier, Braden Point. Bon, connaissait déjà un début de saison difficile. Là, il est blessé. La durée, c'est pas clair combien de temps ça va prendre dans son cas. C'est Anthony Cirelli qui est utilisé à sa place. Tu t'attends... Quand tu regardes ce que Cirelli peut faire, c'est un joueur qui est dans l'ombre depuis longtemps chez Lightning. Il n'a jamais eu les belles opportunités quand Steven Stamkos était là, quand Point était là sur le jeu de puissance. Cirelli, est-ce qu'il faut quand même faire preuve de patience? Tu t'attends à quoi?
Bien, Cirelli, c'est déjà un super bon joueur de profondeur. C'est un joueur d'utilité dans votre pool. Moi, je pense que ça peut... Moi, je pense que c'est une très bonne option, Cirelli, juste parce que, tu sais, bon, il est super bien entouré avec les Kucherov, les Genzel. Puis, tu sais, une chose qu'il ne faut pas oublier avec Cirelli, c'est que la saison dernière, il a fait 59 points. Tu sais, je veux dire, c'est pratiquement un joueur de 60 points l'année dernière, Cirelli, en 80 matchs. Donc, cette offensive-là, elle existe en lui. Il est capable de contribuer offensivement. Donc, moi, c'est un joueur sur qui je ne serais pas du tout gêné de me jeter en remplacement de Braden Point. Donc, moi, je m'attends à ce que ça se poursuive pour lui. Il y a des bonnes statistiques cette saison. Il était à 17 points en 21 matchs. Là, bon, il était blanchi à ses deux derniers matchs, mais avant ça, ça allait très bien pour lui. Il y a une séquence de 5 points en 3 matchs. Donc, moi, c'est une option que j'aime beaucoup en l'absence de Point. C'est une option au sein de la même équipe. On sait un peu ce qu'on va obtenir. Parce qu'on a un déploiement qui est bon pour lui. Donc, moi, c'est vraiment quelqu'un vers qui je me tournerais, ouais, sans aucun problème. J'ai confiance que ça se maintienne là, tant que Point ne sera pas de retour. Puis j'ai hâte de voir au retour de Point. Je me demande, tu sais, là, je dis ça comme ça, mais je me demande s'il ne jouait pas déjà blessé depuis le début de la saison. Ça expliquerait peut-être son début de saison qui est pas possible. C'est pas le vrai Braden Point qu'on a vu en début de saison. Là.
Quand même spécial, pareil, le Lightning, parce qu'on est sans Braden Point, on est sans Victor Hedman, puis là, on est sur une séquence de 7 victoires, peut-être même 8 là, si on l'a emporté ce soir. T'as Darren Radish qui remplace Hedman sur le jeu de puissance, puis qui présentement est payant Darren Radish dans les pools. Tu sais, un défenseur à salaire, écoute, c'est pas loin du salaire minimum. Là. Dans son cas, Radish, me semble, c'est pas très, très haut. Il performe énormément. C'est peut-être un joueur que vous pouvez aller chercher au balotage ou quelque chose comme ça, d'ici à ce qu'Edmund revienne. Edmund, son absence, il restait une ou quelques semaines. Je pense que ça a été étiré un petit peu. Donc, dans le cas de Radish, ça pourrait être un choix là, de supplémentaire. Là.
Puis, tu sais, dernière chose, mais tu dis, sont en feu, ils gagnent quand même malgré des blessés importants.
Ouais, c'est
deux joueurs à souligner. Le gros chat, Andrei Vasilevski, qui a rebondi lui aussi en octobre, fiche de 3-3-2, pourcentage d'arrêt de 899. Ça allait pas très bien à Andrei Vasilevski au mois d'octobre. Depuis, on dirait qu'il a pris l'équipe sur ses épaules, fiche de 8-2-0, moyenne de 2,08, pourcentage de 931. Il fait les arrêts en l'absence d'éléments clés. On a besoin de tout ça qu'il fait. Puis l'autre aussi, un joueur que je sais que t'aimes bien, Nikita Kucherov.
Ouais.
T'sais, depuis début du mois de novembre, c'est le cinquième meilleur pointeur de la Ligue à égalité avec McDavid. 22 points en 14 matchs. Au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre, il était à égalité au 60e rang de la Ligue. 10 points en 9 matchs. Donc, t'sais, quand ces deux gars-là se mettent à... T'sais, quand ils décident que là, c'est assez puis qu'on arrête de niaiser puis on se met à jouer, Vasilevski puis Kucherov, ben tu peux t'en sortir même sans un point puis un headman grâce à ces gars-là.
Ces gars-là n'ont pas joué longtemps en séries éliminatoires dans les deux dernières années. Là. En tout cas, dans l'année dernière, à un moment donné, c'est des forces que tu reprends par rapport aux années où tu étais tout le temps en finale. Donc, c'est des joueurs qui sont vieillissants, les deux, Kucherov et Vasilevski, mais qui en ont encore dans le réservoir. Finalement, écoute, on parlait de blessures. Il faut remonter au début de la saison parce que c'est pas du fait que Mackenzie Blackwood n'est pas capable d'amorcer la saison. On parlerait jamais, jamais de Scott Wedgwood aujourd'hui. Mais là, Wedgwood, écoute, c'est une porte qui s'est ouverte. Il a sauté dedans, il l'a défoncé, puis vraiment, il ne s'est pas retenu. Là, on parle de lui même peut-être pour l'équipe olympique canadienne. C'est un vétéran de 33 ans. Ça sort de nulle part, cette équipe-là. Mais est-ce que ça va tenir? Bon, donne-moi une bonne équipe. Donne-moi un bon gardien, je vais te montrer une bonne équipe. Là, c'est toujours ça qu'on dit. Mais en même temps, tu sais, Blackwood, est-ce qu'on va revenir avec un 50-50 à un moment donné, ou même Blackwood va reprendre le filet? Parce que Scott Wedgwood, jusque-là dans sa carrière, n'avait jamais prouvé énormément, là.
Ben, tu l'as dit, montre-moi une bonne équipe, je vais te montrer un bon gardien. C'est, ou l'inverse, là, je ne sais pas comment tu veux le dire, mais...
Si l'équipe est bonne, le gardien devrait normalement être bon. Tandis que ben, si le gardien est bon, ça ne veut pas dire que l'équipe, elle, va être bonne. On a vu ça à beaucoup d'endroits. Ça a du sens.
Mais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, premièrement, Wedgwood, le début de saison qu'il y a, c'est la preuve que les gardiens dans un pool de hockey, essayez pas de comprendre, là. Je veux dire... On sait jamais ce qui va arriver avec un gardien. C'est la position la plus volatile dans un pool de hockey. Puis ça, c'en est juste la plus récente preuve. Mais il y a des centaines d'exemples, on dirait, depuis quelques années. Moi, je pense que ça va tenir personnellement pour Wedgwood, Nick. Écoute, je pense qu'il va rester dans un système d'alternance avec Blackwood. Mais tu sais, l'Avalanche marque tellement de buts, est tellement engagée défensivement que ses gardiens vont continuellement sortir gagnants puis accumuler des victoires.
Mais tu sais, ce qui est la différence avec Wedgwood par rapport à Alexander Georgiev, là, tu regardes le pourcentage d'arrêt, là, présentement, puis Blackwood aussi, là, les deux sont en haut de 920. Là. Georgiev avait un pourcentage d'arrêt de 890. À l'époque où c'était pas à la mode d'avoir un pourcentage d'arrêt de 890, là, parce que là, cette année, tout le monde est en dessous de 900. Souviens-toi, c'était Martin Jones il y a quelques années avec les Sharks. Les Sharks étaient super bons, mais Jones était un des pires gardiens de la Ligue. C'est ça qui me surprend, c'est à quel point les gardiens... font les arrêts, c'est pas nécessairement l'équipe en avant qui font lever, mais
c'est quand tu...
c'est que je vois pas, je sais que Wedgwood a juste une défaite en temps réglementaire cette année en 18 matchs, mais c'est parce qu'il y avait de quoi bâtir avec Mackenzie Blackwood au Colorado. Tu comprends ce que je veux dire? Ça pouvait être le gardien d'avenir de ton équipe. Il l'était chez les Devils jusqu'à temps que ça plante du nez. Chez les Sharks, oublie ça, il n'y avait aucune chance. Mais là, il arrive au Colorado, puis c'était de quoi qui se construisait. Puis là, s'il ne donne pas 50% des départs, c'est une occasion à long terme parce que Wedgwood doit être joueur autonome à la fin de l'année. Je vais aller vérifier ça. Là.
Mais c'est 100%. Une déception pour les Poolers dans le sens où tout le monde voyait Blackwood comme le gros gardien avec un haut volume de départ qui allait signer comme 35 victoires cette année puis qui allait être dominant, puis finalement c'est pas ça qui se passe du tout. Mais tu sais, moi, Nick, c'est mon seul bémol avec Wedgwood présentement, c'est que tu sais jamais à quel moment ça va redevenir un gardien auxiliaire. Parce que là, ça va bien, l'Avalanche, ils gagnent tout le temps. Quand ils perdent, c'est en prolongation, ils se font... Mais tu sais, on est juste au début du mois de décembre. C'est sûr qu'à un moment donné, ils vont sûrement aligner 3-4 défaites de suite ou 4 défaites en 6-7 matchs. C'est sûr que ça va arriver. Puis dans ces moments-là, ben si Wedgwood joue un peu moins bien, ben là, c'est peut-être là que Blackwood va reprendre la pole. Mais c'est que pour l'instant, moi, je vois pas Jared Bednar... dire comme je brise pas, ce système d'alternance.
Ça va trop bien.
Ça va trop bien. Donc moi, c'est mon seul petit bémol, c'est ça, c'est que tu sais jamais quand est-ce que Wedgwood va redevenir un gardien auxiliaire, parce que tout le monde le sait que c'est Blackwood le numéro un. C'est juste que présentement, la situation fonctionne tellement bien pour l'Avalanche que t'as pas de raison de changer ça. Donc moi, ça serait mon seul bémol. Une petite baisse de régime, Blackwood reprend la pole, mais bon. Regarde, l'inverse est aussi vrai. Là. Si Blackwood, ça se met à mal aller, mais tu sais que tu as Wedgwood qui peut en prendre un petit peu plus, le prouvant en début de saison. Mais reste que... Ça dépend de votre format de pool. T'sais, si vous avez un format de pool que vous pouvez avoir 4-5 gardiens, vous les starter, je m'excuse du terme en anglais.
Départer.
Il faut leur donner les départs au moment où vous voulez. Là, un gars comme Wedgwood dans un système d'alternance, c'est extrêmement payant. Mais dans les pools où vous avez juste deux gardiens, c'est fixe, c'est vos deux gardiens pour toute la saison. Et là, un système d'alternance, ça vous fait mal. Fait que c'est au pooler d'évaluer un petit peu les bénéfices et les risques d'avoir un gardien dans ces systèmes-là.
Avec la fiche de l'Avalanche, même dans un système 50-50, probablement que Wedgwood ou Blackwood vont être dans le top 12 de tes gardiens.
C'est comme il y a quelques années quand Swayman et Ullmark étaient avec les Bruins, la grosse année, les deux ont été super payants, même si les deux étaient dans un système d'alternance, ils perdaient jamais. Mais c'est la même chose avec l'Avalanche présentement.
Puis je te reviens, si Wedgwood continue à jouer comme il joue toute la saison, lui, il est sur un contrat d'un an, il sera pas là l'année prochaine.
Probablement, avec
ce qu'il fait présentement, lui, il a une chance de cacher dans sa vie. C'est à la fin de la présente saison.
Ouais.
Une équipe qui est désespérée, qui a besoin d'un gardien, qui va y faire signe avec un contrat de 3 ans puis avec 5 millions. Je pense pas que l'Avalanche peut se permettre de payer 10 millions, 10 millions et demi, parce que Blackwood fait ça là, à peu près présentement, fait 5,2 millions. peux pas payer pour les deux. Donc,
Cette temps sont mal en patience. C'est sûr que Blackwood va redevenir un jour ou l'autre numéro un. C'est juste pour l'instant. Pourquoi tu l'as dit tantôt, if it ain't broken, don't fix it. T'sais, si c'est pas brisé, il n'y a rien de changé. Quelque chose qui fonctionne bien. Là,
non, touche à rien pour l'instant. Ça, c'est
exact.
On y va, ça tient, ça case. Donc, on regarde les dernières tendances. C'est sûr que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Fait qu'on va recommencer à partir du début de la saison. Puis on va se prononcer, toi ou moi, sur les performances d'un joueur. Ça tient, ça veut dire que ça va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison. Donc, dans votre pool, c'est le temps d'aller chercher ce joueur-là ou c'est le temps de l'échanger c'est le temps d'aller chercher ou ça casse, donc c'est le temps de l'échanger si la valeur est haute ou touchez-y pas s'il n'est pas encore dans votre équipe. Mm-hmm. Morgan Geeky, écoute, c'est le nom qui retient notre attention. Avais-tu dans ta liste de joueurs, mon cher Hugues, Morgan Geeky comme un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale cette année? Il a 20 buts, il est à égalité avec Nathan McKinnon au niveau de la Ligue nationale. Deux buts d'avance sur Sidney Crosby. D'ailleurs, Sidney Crosby, quand même, c'est pas. C'est notable parce que sur son année cette année.
C'est solide.
Là, présentement, Charlie McAvoy est blessé. David Pastrnak est blessé. On n'a pas joué les deux derniers matchs. Résultat, Geeky a 3 buts dans ces deux derniers matchs-là. Tu te situes où dans le cas de Geeky, qui est un joueur qui s'est amené. Bon, c'est au début de carrière avec les Hurricanes, avec le Kraken, ça n'a jamais été enlevé. Sa plus grosse saison, c'était 28 points. Puis là, cette année, écoute, se dirige à un rythme de 60 buts.
Je me situe dans le ça casse, mais ça casse, mais ça tient un petit peu. Tu peux quand même l'utiliser pareil, dans le sens où. Je pense pas qu'il va marquer 60 buts, mais reste que l'année dernière, il a même marqué 33 buts. L'année dernière, il s'est vraiment imposé comme un bon marqueur. Puis je pense peut-être juste que Morgan Geeky, c'est le cas typique du late bloomer dans la Ligue nationale. Il y a un peu ce parcours-là, un peu délaissé par deux équipes, abouti avec une équipe qui donne sa chance. On le fait jouer avec des bons joueurs. Il va continuer de jouer avec Pastrnak. C'est sûr qu'il va continuer à faire un petit peu de points quand même. Ça ne passera pas de ça à ce qu'il y a en ce moment à zéro totalement, je pense. Mais là où je pense que ça ne tient pas, c'est que je ne pense pas qu'il va maintenir 28% de pourcentage de tir. Là, je veux dire, présentement, on parle d'un des meilleurs pourcentages de tir de l'histoire de la LNH. Là, ça a comme pas de sens. Là. Il était à 20% l'an passé. Fait que c'était quand même très élevé. Donc, je ne serais pas surpris qu'il reste pas loin de 20%. Tu sais, que ça reste quand même un bon marqueur qui marque sur beaucoup de ses tirs, parce que 20%, c'est déjà très élevé. Mais quand même, là, mettons qu'on le met à 18% cette année, ce qui est très bon, il y aurait juste 12 ou 13 buts au lieu de 20. Donc, 18-19 points au lieu d'être un gars d'un point par match. Donc, c'est pour ça que je pense que ça ne tient pas, mais sans dire qu'il va pas s'effondrer non plus. Donc, ça ne tient pas.
Oui, c'est ça. Ils n'ont pas vraiment d'autres options pour l'aile droite là, à Boston, donc Geeky. Mais ça va casser. Là. C'est sûr, ça ne sera pas 60 buts. Probablement
ça va
pas
casser
50.
Dans une mesure. Ouais.
Ça va casser à un moment donné. D'ailleurs, les Bruins ont commencé à ralentir aussi. Mais bon, ça reste un joueur qui ne va pas tomber à zéro. Léo Carson, écoute, on ne l'attendait pas. On n'attendait pas nécessairement Beda ou Celebrini cette année, mais les trois connaissent des saisons de rêve. Là. Bédard est troisième marqueur de la Ligue avec 37 points, Carson 36 et l'ami Celebrini qui est deuxième avec 40 points. Donc, les jeunes sont là. La différence, c'est que Celebrini et Bédard sont relativement tout seuls dans leur coin. Oui, il y a Will Smith, oui, il y a quelques petits joueurs, mais c'est pas autant. Il n'y a pas autant de profondeur qu'à Anaheim. Léo Carson, il y a plus de profondeur. Il y a d'autres joueurs qui peuvent prendre sa petite Mason McTavish, au niveau du jeu de puissance, au niveau de comment tu es utilisé. Carson, est-ce que tu t'attends à ce que ça tienne, sa performance actuelle, ou ça va casser éventuellement, va frapper un mur?
Ça va tenir. Il frappera pas un mur. Je pense par exemple pas qu'il va faire le 113 points sur lequel il est en voie de faire. Même chose pour Celebrini puis Bédard là, qui sont des rythmes de plus
casse.
De 120 points. Ça casse, mais je veux dire, ça casse, mais comme.
Tu
demandes
s'il
frappe
dans
un mur. Je pense pas qu'il frappe un mur.
T'es vois-tu dans le top 10 de la Ligue des marqueurs à la fin de la saison? Ben, je vais te nommer une couple de gars qui sont pas dedans là. Kucherov, Kirill Kaprizov, Leon Draisaitl, Sidney Crosby qui n'est pas dans le top 10 présentement, David Pastrnak qui n'est pas dans le top 10. C'est sûr que ça va dépendre du temps qu'il va être blessé. Il y a des candidats qui sont à l'extérieur présentement, mais qui ont un bon potentiel de remonter. Donc, est-ce que tu les vois dans le top 10, sur le bord du top 10, ou même écoute, top 5 là, présentement, là, parce que je veux dire, les 3 sont 2, 3, 4, là, on parle du top 5.
Mais
ce, que, ce que j'entends, c'est non, là, de la manière que tu m'as dit ça.
Ben, je vois peut-être Celebrini, peut-être Carlson dans le top 10, mais je pense qu'ils vont quand même ralentir un petit peu. Tu sais, l'année passée, là, il y a 8 joueurs qui ont fait 120 points. Je recommence. Il y a 8 joueurs qui ont fait 120 points depuis le début des années 2000. En ce moment, tu sais, je veux dire, je pense. Là, en ce moment, t'as McKinnon, t'as Celebrini, t'as Bédard, t'as Carlson qui est pas loin. Tu sais, je pense qu'il y a quelqu'un qui va casser là-dedans. L'an passé, il y a 6 joueurs de 100 points. Présentement, il y en a 13 qui sont en voie de le faire. Donc, je vois ça aussi diminuer. Mais je vais dire, pour répondre à ta question, là, je pense que Celebrini pourrait rester dans le top 10 des marqueurs. Je trouve qu'il est mieux entouré que Bédard. Carlson, pour la même raison, je vais dire que oui ou rester tout près. Je pense que c'est peut-être Bédard que ça va casser un petit peu, juste parce que j'ai l'impression que le fait d'être mal entouré, ça va finir par le rattraper.
Je t'amène vers un autre jeune joueur, Jesper Wallstedt, chez le Wild du Minnesota, qui vient d'être nommé ce matin recrue de la semaine, recrue du mois plutôt,
ouais,
dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, là, il est en action ce soir, on ne sait pas ce que ça va donner, mais il toujours pas subi la défaite en temps réglementaire en 9 matchs, 7-0-2, 938 de taux d'efficacité, 1,93. Ça tient ou ça casse? Puis si ça tient, est-ce qu'il devient gardien numéro un vrai gardien numéro un de cette équipe-là?
Ça tient. Par contre, la statistique ne tiendra pas, là, c'est jeu blanc. Là, j'en train de regarder présentement. Il y en a trois. Il y a trois jeux blancs. C'est 6 derniers matchs. Il y a 3 jeux blancs, c'est 5 derniers matchs. Là. On ne sait pas ce qu'il va faire ce soir au moment d'enregistrer, mais bon, au moment d'enregistrer, il y a 3 jeux blancs, c'est 6 derniers matchs. Bon, ça ne tiendra pas, on le sait tout. Là. Mais je pense que ça tient. Puis je pense pas non qu'il va voler le poste de Gustafsson. Je vois un peu la situation un peu dans le sens de la même façon qu'avec l'Avalanche. Présentement, ça va tellement bien avec ces deux gardiens-là. Le Wild, depuis le début du mois de novembre, s'est mis à gagner. À partir du moment où Wallstedt a joué plus, puis tu sais, on dirait que ça fait ressortir le meilleur des deux gardiens. T'as un Wallstedt qui est super bon, puis on dirait que oups, ça force Gustafsson à donner le meilleur de lui-même pour pas perdre sa job. Puis c'est le Wild qui en sort gagnant, tout ça, dans le fond. Donc moi, je pense qu'on va laisser ça de même. Pour la même raison qu'on parlait tantôt avec l'Avalanche, tu ne changes pas une recette qui fonctionne. Puis je pense que tu veux pas non plus jeter un gars comme Wallstedt qui commence dans la Ligue nationale. Tu veux pas le jeter dans le rôle de numéro un. Puis
qui a attendu pour commencer dans la Ligue nationale. Ouais. Il est prêt, là, lui, là, ses saisons de 50-60 matchs dans la Ligue américaine là, sont faites. Là.
Exact. Puis tu sais, je serais pas pressé de donner le rôle de numéro un. Je serais comme, garde, présentement, ça va bien. Développe-toi à ton rythme. On a une bonne police d'assurance avec Gustafsson. C'est sûr qu'à long terme, c'est probablement Wallstedt qui va miser. Mais bref, tu sais, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts d'ici là. On verra qu'est-ce qui va se passer. Je sais que Gustafsson, à partir de l'an prochain, il tombe un nouveau contrat qui, à long terme avec le Wild. Donc, je pense que ça tient. Ça fonctionne. Le Wild s'est remis à gagner. Donc, allez-y fort avec Wallstedt, allez-y fort avec Gustafsson. Je pense qu'ils vont être payants dans votre pool. Pour autant que vous puissiez vous permettre un duo de gardiens ou un gardien qui est dans un système d'alternance.
C'est sûr que les poolers qui ont Gustafsson, c'est une déception cette année parce qu'on s'attend à ce qu'il ait beaucoup plus de départs. Mais en même temps, le Wild est 7e présentement. Même, non, pas vrai, là, on peut dire à égalité au 5e rang de la Ligue. Donc, le nombre de victoires du Wild est peut-être beaucoup plus élevé que ce à quoi on s'attendait. Moi, je les voyais vraiment sur la limite pour faire les séries éliminatoires. Donc, jusqu'à présent, ça va très bien. Donc, peut-être que Gustafsson aurait pas aurait peut-être 10 victoires, mais aurait aussi 10 défaites selon le nombre de départs qu'on aurait donné à Wallstedt à ce moment-là. Donc, oui, il serait plus payant, mais on joue mieux du côté du Wild. Mais je sais pas. J'ai l'impression de revivre la situation Askarov, Saras du côté de Nashville. Ça n'a pas vraiment tourné à l'avantage de Nashville, la décision qu'on a prise. Trevor Zegras, écoute, fonctionne. Changement d'environnement très payant pour Zegras. 1 point par match jusqu'à présent, 25 points en 25 matchs. Si vous voulez lire demain matin, donc au moment où vous nous écoutez, là, il y a un texte sur lnh.com sur Zegras qui explique un peu que son changement d'air lui a fait grand bien, qu'il est un nouvel homme, qu'il sent qu'il a la confiance de Rick Tocchet, ce qui n'était pas le cas sous Craig Cronin du côté d'Anaheim. Donc, c'est exactement ce à quoi on s'attendait de la part de Zegras. Mais on sait aussi ce que Zegras a fait dans le passé. Cette moyenne-là d'1 point par match, Zegras, ça tient ou ça casse, Hugues?
Ça va casser un petit peu. T'sais, le 1 point par match, je pense que ça casse, mais ça va rester un gars productif pour toute la saison. Je ne serais pas surpris de le voir franchir le plateau des 70 points, là, être pas loin du point par match. Ce que j'aime de Zegras présentement, c'est qu'il joue à l'aile avec Dvorak et Owen Tippett. Pis, le fait de le faire jouer à l'aile, il a moins de responsabilités qu'au centre. T'sais, il peut peut-être un petit peu plus utiliser ses atouts offensifs sans avoir à se soucier de la job un peu plus défensive. Puis c'est un rôle qui appartient à Dvorak. On dirait que c'est comme le mix parfait, le grand frère qui s'occupe de comme garde. Hey, moi, je vais m'occuper de la défensive. Toi, va t'amuser en attaque. Puis on dirait que ça l'a vraiment libéré de jouer à l'aile. Puis tu sais, le changement d'air, tu t'en parlais, le changement d'air, là, juste, on dirait que ça l'a relancé. Moi, je trouve que c'est un déploiement optimal pour lui présentement. De l'avantage numérique, jouer avec un centre qui est responsable, défensivement. Donc, je pense que ça tient pour ces raisons-là. Peut-être pas le point par match, mais je serais pas surpris qu'il termine pas loin du point par match. Fait qu'on va dire que, ouais, on va dire que ça tient. À peu
ça
près.
Tient, donc tu le vois en haut de 75, mettons.
À peu près dans ces eaux-là, 70-75 autour de ça. Je serais pas surpris du tout. Là, ça va.
Ouais, mais il faudrait que ça casse quand même pas pire, parce que ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un point ou deux matchs pour le reste de la saison. Donc,
c'est
au
ça.
Moins 75 si on veut que ça tienne. Mm-hmm. Un qui est à l'inverse, c'est Gabriel Landeskog, 12 points en 25 matchs jusqu'à présent dans la saison de l'Avalanche. On sait d'où Landeskog revient, une blessure. Lui, c'était quoi? C'était la hanche? Le genou.
C'était une grosse blessure.
Il n'a pas joué pendant deux saisons, entre autres. Puis, bon, mais Landeskog, dans les trois derniers matchs, a 5 points, vient d'être installé sur le premier jeu de puissance de l'Avalanche. Tu y crois? Tu penses que cette nouvelle production-là là, qui ça va tenir? Ou Landeskog n'était pas vraiment une option de haut calibre au début de la saison, puis ça va rester comme ça?
Moi, je pense que ça tient. Bon, là, il est comme. Il est 8 points à ses 9 derniers matchs. Là. Ça, ses stats sont un peu gonflées par son match de 3 points contre Montréal samedi dernier. Là. Je pense pas qu'il va maintenir l'équivalent de 8 points à 9 matchs sur toute la saison. Là, ce qui est un rythme de comme 70 points. Je pense pas que ça va être ça. Mais si tu enlèves le match contre Montréal, il est 5 points à 8 matchs. 5 points à ses 8 derniers matchs. Donc, moi, je pense qu'il peut garder ce rythme de production-là décent. Il ne faut pas oublier que Landeskog a un mauvais début de saison, mais il revenait, t'en as parlé, d'une longue absence. Même s'il a joué en série un peu l'an dernier, il fallait quand même, je pense, lui donner un certain temps d'adaptation. Donc, moi, je pense que ça va se maintenir. L'Avalanche marque tellement de buts, ils sont tellement dominants offensivement, que je le vois maintenir une production décente, comme production de joueurs de profondeur dans son pool. Là, comme je dis, les 8 points à ses 9 derniers matchs, je pense pas qu'un rythme comme ça d'ici la fin, c'est soutenable. Mais l'équivalent d'un joueur de 50-55 points, pourquoi pas, surtout s'il reste sur la première vague de jeu de puissance.
Ça se maintient dans le sens qu'il ne deviendra pas un joueur d'un point par match, comme c'est ça que tu veux dire. Emballez-vous pas!
Non, vraiment, vraiment pas. Emballez-vous pas, sauf que ça représente quand même une bonne option de profondeur, comme je dis. T'sais, un bon
pas
joueur
la masse salariale, par contre. Là.
Non, peut-être pas exactement, mais t'sais, dans un pool, vous avez besoin d'aide en attaque. Un soir, il est disponible sur sur le balotage. Mais t'sais, en vous disant que l'Avalanche, contre une équipe, mettons, t'sais, l'Avalanche ce soir, elle joue contre les on va en rejeter contre les Canucks, contre une équipe qui t'sais, que tu sais que son favori, ben, t'sais, même c'était un peu la même chose contre Montréal, on savait que l'Avalanche était favori, ben, t'as starté Landeskog ce soir-là, ben, il t'a fait 3 points, t'sais, fait que il va avoir son utilité quand même si sur toute la saison, je pense pas que ça va être un joueur d'un point par match, mais un rythme de 45-50, même 55,
je pense que c'est plus raisonnable dans son cas.
Oui, ouais, exactement.
Les Panthers de la Floride, ça va pas très bien, Hugues, mais il y en a un pour qui ça va quand même très bien, c'est le bon vieux Brad Marchand qui a 27 points en 23 matchs, qui est en train de dire à tout le monde « Je suis mieux d'être sur la formation d'équipe Canada aux Olympiques ». C'est surprenant si on sait que Matthew Tkachuk n'est pas là. En plus, Alexander Barkov n'est pas là. Il manque ce qui sont les deux meilleurs joueurs de cette équipe-là. Marchand, tu penses que ça va tenir ou ça ne tiendra pas?
Je pense que ça casse.
Ça tient ou ça casse?
ça casse pour Marchand. Je pense pas que c'est le retour de Tkachuk qui va nécessairement le faire casser. Moi, je pense que c'est juste son pourcentage de tir qui est trop élevé. 23,4% présentement, moyenne en carrière de 15,3. Tu sais, là, je veux dire, tout rentre présentement, ça va comme parfaitement bien. Puis Marchand, c'est un joueur qui a un peu, par les dernières années, eu la réputation de souvent bien commencer ses saisons, puis, tu sais, dans la deuxième moitié, ralentir un petit peu. Donc, je serais pas surpris que ce soit quelque chose comme ça qu'on voit. Moi, si j'étais un pooler qui a Brad Marchand présentement, là, dépendamment de votre situation, vous êtes en train de gagner, vous pouvez pas vraiment vous en passer, mais j'essaierais de le vendre contre tu sais, un pooler qui a besoin de gagner, un pooler qui a besoin de points tout de suite, ben j'essaierais d'aller chercher le gros magot pour lui, puis je serais pas surpris que la deuxième moitié de saison, ça soit peut-être un peu plus difficile, sans être catastrophique, évidemment. Je vais rester quand même, va continuer à faire sa part de points, mais là, il est au-dessus du point par match présentement. Je suis convaincu que ça casse.
Finalement, ouais, moi aussi, je pense que ça va casser, ouais. Mais je suis curieux de voir un peu là, quand. Mais en même temps, faut que ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a ces statistiques-là avec la fiche des Panthers qui sont présentement avant-dernier dans l'Atlantique. Les Panthers se doivent de jouer du meilleur hockey, donc du hockey qui serait sur papier plus offensif, parce qu'au niveau du différentiel, on est seulement à moins 2 buts présentement. Donc, c'est pas qu'on accorde une tonne de buts, là. C'est vraiment qu'on la met pas dedans. Le seul qui performe, c'est Marchand. Donc, sur papier, je me dis, Brad Marchand, ça va casser. En même temps, c'est Brad Marchand. C'est le gars, depuis le début de sa carrière, qu'on dit, lui, ça va casser à un moment donné. On va se tanner de lui, puis il va se blesser, puis il est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Donc, Brad Marchand, je dirais au neutre. Oui, ça va casser un peu, mais un point par match, j'ai pas de problème à y croire. Finalement, notre dernier dossier, Jacob Chychrun, du côté des Capitals de Washington, 23 points, 26 matchs, 10 buts jusqu'à présent, est en train de s'établir comme le nouveau défenseur numéro 1 de cette équipe-là. John Carson, on le savait qu'il allait avoir une passation du flambeau prochainement, mais là, Chychrun est rendu sur la première vague du jeu de puissance. Donc, merci John pour tes services, mais il y a des bonnes chances qu'on regarde ailleurs. Écoute, il a, dans ses derniers matchs, là, c'est 4-6 buts à ses 6 derniers matchs. Jacob Chychrun, puis Alex Ovechkin, puis la remontée, parce que là, les Capitals, on a eu de la difficulté, mais là, on joue beaucoup mieux les Capitals dans nos on est 7-2-1 dans nos 10 derniers matchs. On est sur une séquence de 4 victoires consécutives. Tu crois Jacob Chychrun avec des statistiques de comme ça, là, t'es parmi l'élite de la Ligue, là. T'es dans les 60-70 points, là, je vais te le calculer, là, mais t'es... C'est une saison, c'est un rythme de 29, 22 divisé par 26. Ah ouais, les beaux mathématiques. 73 points arrondis vers le haut. Tu crois à ça? Ça tient ou ça casse?
Ça tient, tu l'as dit. Il y a la première vague d'avantages numériques pour continuer à produire. Puis ce que j'aime beaucoup de Jacob Chychrun, c'est qu'il utilise son lancer à profusion. Il y a déjà 87 tirs au but au moment d'enregistrer. Fait que ça lui donne un pourcentage de tir de juste 11,5%, qui est presque identique à l'an passé. Puis pas tant plus haut que sa moyenne en carrière, qui est de 7,7%. Donc, il n'y a rien qui me. Tu sais, il n'y a rien qui est comme un drapeau rouge que je me dis, OK, ça, c'est sûr que ça ne peut pas tenir. Il est juste dangereux de tellement de façons. Il peut passer, il peut marquer des buts. Tu sais, moi, Jacob Chychrun, il a fait 20 buts l'année passée. Je ne serais pas surpris qu'il en fasse 30 cette année. Là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment
c'est
à ce point-là.
Gros,
là.
30, là.
C'est gros, mais je ne serais pas surpris qu'il soit près du 30 buts. Là. Il a fait 20 l'année passée. Fait que, qu'est-ce qu'il dit à ce rythme-là où il va présentement? Pourquoi il ne pourrait pas en faire 25, 26, 27? On ne sait jamais. Là.
20 à 74, là.
Ouais, mais puis c'est ça, mais c'est qu'il tire tellement, il décoche tellement, tu sais, son lancer est puissant, son lancer est tough, puis quand il touche pas la cible, ben son shot il est redirigé ou il y a un retour, donc ça fonctionne, c'est vraiment une double menace, peut passer, peut tirer. Le seul bémol que j'ai avec Jacob Chychrun, c'est qu'historiquement, c'est un défenseur qui fonctionne par séquence, puis on l'a un peu vu cette saison quand même. Tu sais, commencé au début de l'année super bien, 6 points à ses 7 premiers matchs, puis après ça, il y a eu une séquence de 8 matchs où il a juste fait 4 points, puis dans cette séquence-là, il a été blanchi 6 fois. Fait que là, il est comme retombé un peu plus down, puis là, depuis, il a 13 points en 11 matchs. Fait que tu sais, s'il évite ces séquences de haut et de bas-là qui maintient une certaine constance, moi, je pense que le 70 points, comme tu dis, est vraiment, vraiment, vraiment pas impossible. Il est juste trop... Il tire, il passe, il fait tout. Donc, pourquoi pas?
Tout ça alors que les Capitals ont le 27e jeu de puissance de la Ligue. Imagine si ça devait débloquer avec Chychrun qui s'ajuste. Je n'ai pas regardé le pourcentage depuis que Chychrun est sur la première vague, mais ce serait un gros point. Hugues, on termine ce segment Poolers avec toi. Nos recommandations, c'est des recommandations, je dirais quoi, pour le prochain mois, ça te va-tu?
Prochain mois, fin de la saison. Pour l'avenir rapproché, disons. Là, sur quatre saisons, mais pour vous aider d'ici la fin. C'est ça. Pour vous donner un coup de main là, à partir de maintenant jusqu'à ce que ça lâche ou si ça tient bien, tant mieux.
Vas-y, je t'écoute ta recommandation pour les prochaines semaines.
Ben moi, j'ai Matt Zuccarello du Wild du Minnesota. On en parlait tantôt du Wild en parlant de Wallstedt et Gustafsson, à quel point ils vont bien. Tu sais, Zuccarello, c'est un gars un beige, un peu plate à avoir dans son pool, mais on n'a pas le choix de le dire, il fait ses points. Depuis son retour au jeu le 7 novembre, il est à 10 points en 11 matchs. Il est attaché à Kirill Kaprizov sur le premier trio. Ils seront jamais séparés, ces deux-là, ça fonctionne trop bien. Mais malgré ça, on dirait que personne n'en veut de Zuccarello. Il était disponible au balotage de mon pool hier. J'ai regardé ça, il est disponible dans 48% des ligues sur Fantrax, 75% des ligues sur Yahoo. Il est sûrement peut-être disponible dans votre pool. Puis on dirait que personne n'en veut, mais coudonc, c'est le genre de gars un peu plate à avoir, mais qui te fait gagner ton pool. Puis le Wild est reparti offensivement, il gagne des matchs. Zuccarello joue sur l'avantage numérique. Il joue avec Kaprizov à 5 contre 5. Donc, pour moi, c'est d'ici la fin de la saison, il va être un joueur très productif, je pense. Même s'il a 38 ans, même s'il est très âgé, je pense qu'il est très âgé, si je m'excuse, là, mais je parle en termes de joueur d'hockey. Même s'il est un bon vétéran, il fait plus que la job encore. Là. Pas le choix
d'aller. Du gars, chaque fois que je le vois, il y a plus de cheveux blancs que la dernière fois que je l'ai vu. Là, c'est pas fin de dire ça, là, Hugues. Là.
Nice.
Ma recommandation, on reste chez les... Comment?
Ils ont le voit un petit peu, d'ailleurs. Là,
ouais, écoute, tu t'en viens poivre et sol, popé. Ouais, là, un petit look. C'est ça, la paternité. Hein? Ouais. Ça vient avec ça. Donne ça accélère la patente. Moi, il recule. Toi, il change de couleur, moi, il recule. Hugues, moi, ma recommandation, je reste chez les Capitals. Tom Wilson, écoute, il est en train de devenir un joueur d'impact comme on ne le soupçonnait pas. Moi, je le verrais avec le Canada aux Olympiques. Mm-hmm. Là, il y a 29 points en 26 matchs cette année, 15 buts. C'est un joueur qui était en progression jusqu'à temps qu'il se blesse. Souviens-toi, au genou, a été opéré au terme de la saison 2022. Puis ça a pris un peu de temps à revenir. Oui, au début, on le voyait comme, souviens-toi, comme le gars trop souvent suspendu. Puis un peu le gars que son travail, c'était de faire de la place à Alex Ovechkin en avantage numérique, puis sur son trio. Mais là, il est de plus en plus utilisé vraiment comme une force. Là, c'est ça, écoute, il roule à plus d'un point par match. Si tu me dis que cette année, Tom Wilson fait 80 points, je vais être impressionné. Mais si on regarde, ça a pris du temps quand il est revenu de sa blessure. 35 points il y a 2 ans, 65 points l'année dernière. Puis là, roule à un rythme de plus d'un point par match. C'est un gars, comme je dis, qui est en progression, qui est quand même solide, là, va manquer quelques matchs, il va toujours avoir aussi une petite blessure ici et là. Et dans les pools à catégorie multiple, ben les minutes de pénalité, les mises en échec, ben c'est sûr que ça devient vraiment, vraiment payant d'avoir un Tom Wilson. Donc, c'est ma recommandation. Je veux savoir maintenant, en terminant, ton joueur à éviter.
Mon joueur à éviter, c'est Sean Monahan chez les Blue Jackets de Columbus. Ça fait déjà plus qu'une dizaine de matchs là, que Adam Fantilli a été préféré au centre du premier trio avec Voronkov. Bon, et Marchenko. Là, Marchenko est blessé présentement, mais c'est Fantilli qui est sur le premier trio. Puis ça se répercute un peu sur ses statistiques à Monahan. Présentement, là, il joue avec Ken Johnson puis Miles Wood. Hier, il était jumelé à Miles Wood et un certain Luca Pinelli. Donc, on semble peut-être vouloir un peu plus l'utiliser comme peut-être le centre plus responsable, plus à caractère défensif. Donc, on a donné les meilleurs alliés à Fantilli. Donc, j'ai l'impression que sans des alliés de qualité, ça pourrait être un petit peu plus difficile pour Monahan de produire avec constance. Là, même si il va quand même avoir ses matchs de quelques points, il va quand même être productif sur certaines séquences. Mais je pense... S'il n'est pas utilisé sur le premier trio, ça risque d'être difficile parce que derrière, c'est peut-être un petit peu mince. Avec Ken Johnson qui ne connaît pas une super bonne saison, on sent que derrière le gros premier trio de Columbus, il manque peut-être un petit peu de ressources offensives. peut-être ce qui pourrait affecter la production de Monahan présentement.
De mon côté, ben, Evgeny Malkin, écoutez, si vous l'avez, ma recommandation, ça serait de l'échanger. Oui, 26 points en 25 matchs de cette saison, mais c'est parce que ça a vraiment parti sur les chapeaux de roue. Écoutez, lors de ses. Avait pas de points, avait un seul point lors de ses cinq derniers matchs avant d'en marquer. Hier, il a obtenu deux passes contre Philadelphie. Mm-hmm. A pas eu, à part justement ce match-là comme hier, a pas eu un match de deux points depuis le 27 octobre. Sidney Crosby marche à plein régime encore, mais Malkin, je pense, est en train de retrouver le rythme qu'on l'avait vu avoir dans les dernières années. Je pense pas qu'il va y avoir de fontaine de jouvence dans le cas de Malkin. C'est un joueur qui a eu des problèmes de santé dans le passé. Ça m'inquiète moins, honnêtement. Mais bon, dans un pool à masse salariale, je pense que Malkin perd beaucoup de valeur. Vous pouvez vous essayer, écoutez, si vous avez un amateur des Pingouins de Pittsburgh qui vit encore dans le déni par rapport à la situation d'Evgeny Malkin, ben écoute, faites-lui signe. Peut-être que vous allez avoir une bonne monnaie d'échange contre lui, mais c'est pas un joueur que je viserais là, pour le reste de la saison. Hey, c'était bien le fun de t'avoir. Je suis content de t'avoir accueilli aujourd'hui.
Ouais, c'était cool.
On va remettre ça plus tard là, dans les prochaines semaines. On va te revoir.
Absolument.
Parce que c'est le fun. Je pense que les gens aiment ça aussi, parler de Poolers. Donc,
ben, quelques fois par année.
Puis, écoute, de toute façon, si jamais GF ou Guillaume ne sont pas disponibles, ben, toi, tu peux venir parler de hockey en tout temps. C'est juste que.
Ça va me faire plaisir.
C'est juste que souvent, tu es occupé aussi avec tout ce qu'on a à faire.
C'est ça, exactement.
Du côté de LNH.com. Merci encore beaucoup, Hugues, d'avoir été là.
Ça fait plaisir, Nick.
Alors voilà, c'est ainsi que prend fin le balado cette semaine. Merci beaucoup à JF et Guillaume qui ont été avec moi plus tôt dans l'émission. Merci à Hugues qui vient de venir nous parler un peu de Poolers. Chers auditeurs, ben, notre prochain rendez-vous, ça va avoir lieu mercredi prochain. On a repris l'horaire habituel des mercredis, à moins d'un changement de dernière minute, mais ça devrait être ça. Donc, si vous êtes certain de ne pas rater le moindre balado, ben suivez-nous sur, abonnez-vous sur votre plateforme de diffusion préférée. Vous êtes sûr de ne rien manquer. Suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.